I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Alors les gars, on est arrivé au moment où je n'arrive plus à compter, c'est trop loin. On va juste dire le nouvel épisode sans numéro. Avec moi, il n'a pas la main, pour une fois, c'est Adrien. Comment ça va Adrien?
Bah ça va bien, on fatigue un peu avec ce rythme, on se fait regarder tous les matchs assez tard, mais c'est cool, là on est à fond dedans, donc ça va bien.
Puis le meilleur pour la fin. J'avais une question Adrien, on en a un peu parlé entre nous avant d'enregistrer. Jimmy Butler en finale NBA, est-ce que ça te fait un petit pincement au cœur pour toi, supporter des Bulls?
Ah bah c'est quelque chose que j'ai pas trop dévoilé à Alan pendant cette série, parce que bon, on comprend le supporter Celtics, mais oui, moi je suis un peu team Heat sur cette fin de playoff, clairement.
Et puis pour compléter l'équipe, il revient de Guadeloupe pour retrouver la grisaille parisienne et la pluie, c'est Tom. Comment ça va Tom?
Ça va, j'ai connu des jours meilleurs il y a quelques semaines, voire, mais ça va, écoute. On profite et on est content de revenir dans l'émission après le live, quoi. Même pas après la prévue contre Milwaukee.
C'est ça, j'allais dire, ouais. qu'on t'a lâché à l'époque où on pensait que le Milwaukee allait faire quelque chose en playoff.
Ça paraît loin maintenant.
Ouais, une éternité à l'histoire de la NBA. Donc messieurs, aujourd'hui, logiquement, on va revenir sur les finales de conférence et parler de ces finales NBA qui vont donc commencer dans la nuit de mercredi à jeudi. On a donc le nom des deux finalistes, les Lakers et le Heat. Le programme est donc très chargé. Avant d'en discuter, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude sur Twitter. Et la preuve, aujourd'hui, on vous a demandé de quelques heures avant l'enregistrement de poser des questions. Alors je m'attendais à en avoir deux, on en a eu 15, donc du coup ça a complètement chamboulé la trame. Et abonnez-vous aussi sur les plateformes de streaming comme d'habitude. On marque la légère pause habituelle et puis on se retrouve pour discuter de l'accession des Lakers et du Heat au final NBA. Miami et Los Angeles, on a donc le nom des deux finalistes de cette saison 2019-2020. Alors une saison ô combien particulière, parce qu'on connaît les finalistes fin septembre, hein. Ça c'est assez particulier. Avant de discuter de cette série, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça, revenons sur le parcours récent des deux franchises, donc à savoir leur finale de conférence. Alors on va commencer par l'équipe qui a pris le moins de temps, les Lakers, 5 petits matchs pour disposer des Nuggets. Adrien, je vais commencer avec toi avec une question un peu polémique, mais est-ce qu'on n'est pas trop exigeant avec les Lakers? Alors pour expliquer pourquoi je pose ça, ça renvoie à une conversation qu'on a vue entre nous sur le WhatsApp des rédacteurs du site Dunk Hebdo, où personnellement j'avais trouvé qu'on était très dur avec ces Lakers. Ça fait 3 tours qui passent à chaque fois en réussissant à s'adapter à l'adversaire, et je trouve qu'on leur donne pas assez de crédit pour ça, moi.
Ouais, je suis un peu d'accord, c'est aussi quelque chose qu'on voit sur Twitter chez la fanbase des Lakers qui se moquait un peu du fait que pendant tous les playoffs, à chaque fois on disait attention, le seed 8 de Portland, c'est quand même un seed compliqué, ils ont des limites, il va falloir faire attention. Attention Houston, c'est pas évident, ils ont personne pour défendre sur les deux guards. Attention Denver qui est chaud, etc. Et maintenant qu'ils accèdent à la finale NBA, tout simplement, on commence à dire bon, finalement le parcours était pas si compliqué. Et donc, ça rejoint exactement ce que tu venais de dire. Je pense que c'est tout à leur crédit. À chaque série, on les a vus, souvent le premier match, prendre la température, parfois être un peu dépassé, et puis s'adapter et finalement rouler sur la série. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais moi, en tout cas, c'est la conclusion que ça m'amène tout ça, c'est vraiment l'adage de base que j'avais donné en début de saison, pendant le live aussi, et avant ce début de bulle, on ne parie pas contre LeBron James. Voilà, on ne parie pas contre LeBron James.
Un des 12 commandements de DH de Dunk Hebdo, on ne parie pas contre LeBron James en playoff. Tom,
sauf contre les Warriors avec Kevin Durant.
C'est ça, oui. La petite astérix qu'il faut lire tout en bas du document. Tom, du coup, tu l'as dit, on t'a pas entendu depuis le début de ces playoffs. Qu'est-ce que t'en dis, toi, de ces Lakers? Parce que avant, du coup, si on remonte à la dernière fois, on t'a entendu dans ce live et avant les playoffs, les Lakers, on les classait bien souvent deux, voire trois en dessous des Bucks et des Clippers. Bucks, Clippers ne sont plus là. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ces Lakers?
Ben, les Lakers, pardon, ils ont fait un parcours vraiment, moi, je dirais pas exceptionnel, mais ils ont fait un parcours vraiment très solide, quoi. Ils ont montré à chaque fois qu'ils étaient attendus, ils ont su répondre avec des ajustements tactiques à chaque fois qu'un challenge différent leur était proposé. Ils n'ont jamais paniqué et, ils se sont montrés comme étant la meilleure équipe de l'Ouest tout le long des playoffs, quoi. Enfin, comme tu disais, il y avait pas mal de doutes déjà au début des playoffs par rapport au fait que, voilà, il y avait la problématique d'Avery Bradley qui avait quitté l'équipe et qui leur enlevait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et finalement, on se rend compte que Caldwell Pope a bien repris ce rôle-là et puis qu'ils ont eu des minutes intéressantes de tous les autres joueurs qu'on pensait auxquels on croyait pas vraiment, quoi. Tous les joueurs un peu repêchés, par exemple comme Dwight Howard, comme Rondo en playoff, voire même Markieff Morris qui donne de bonnes minutes aussi. Tout cet ensemble-là autour de LeBron James qui est vraiment fédérateur et très très fort, même s'il dit fort aussi, mais LeBron, il manque vraiment ses playoffs de son empreinte. Bah, du coup, ça fait qu'on a des Lakers surdominants et je dirais pas qu'ils ont eu un chemin facile, mais qu'ils se sont rendus le chemin facile en étant sérieux du bout en bout.
Et ce qui est assez paradoxal, excuse-moi Ben, mais ça me fait penser à ce que tu dis Tom, c'est que oui, effectivement, on a vu, et on en doutait d'ailleurs, on s'était un peu moqué, d'ailleurs, mea culpa pour moi et collectif, je pense sur Rajon Rondo notamment, Dwight Howard aussi, qui, et les joueurs qui étaient plus attendus, disons Kuzma, Danny Green, pour ne pas les citer, sont finalement ceux qui déçoivent peut-être dans l'ensemble de l'effectif des Lakers, et c'est ceux qu'on attendait moins, donc Rondo, Howard, Maurice, tu l'as cité, Caruso aussi. Ouais. Même JaVale McGee qui a été très intéressant par séquence aussi, notamment stratégiquement avec les adaptations dont tu parlais, voilà, qui eux ont répondu présent. Et puis voilà, LeBron James et Anthony Davis sont de corrects joueurs de basket.
C'est vrai que, enfin, je trouve que on a une espèce de, j'appelle ça une lévitation du côté de LeBron qui est fascinante, où là on a vraiment l'impression qu'il a toutes les cartes et qu'il maîtrise son sujet comme on a rarement vu ça. Par exemple, on voit clairement qu'il y a des moments où il veut impliquer Anthony Davis, le reste du collectif, et il y a des moments où il prend les choses en main. On voyait ça à Cleveland, mais là, je trouve que ça a pris une autre dimension, parce que à Cleveland, fondamentalement, il y arrivait un moment où, du fait des joueurs qui l'entouraient, il était obligé de reprendre vite la main et de asseoir sa domination. Là, j'ai vraiment l'impression que le mec est en contrôle total, et bon, sans rentrer dans la petite histoire, par exemple, le moment où il dit, bon, il aurait dit avant le match 5 contre les Nuggets, je vais finir la série maintenant. On a vraiment l'impression, enfin, visuellement, ouais, il a terminé la série dans le match 5. Enfin, il y a une impression de contrôle qui est incroyable.
Moi, ce qui est étonnant, en plus, moi, ce qui m'étonne le plus vraiment avec, ces Lakers-là et aussi ce LeBron James-là, c'est le côté défensif. En fait, je m'attendais pas en 2020 à avoir une équipe menée par LeBron James dominée défensivement. Vu les itérations d'équipe qu'il a eu autour de lui, par exemple aux Cavs juste avant, on parlait souvent de LeBron James avec des shooters et pour gagner, fallait que tu scores beaucoup plus que l'adversaire puisque il n'était pas en mesure de pouvoir produire, enfin, d'avoir son pic niveau défensif. Et là, en fait, avec ces Lakers là, ben la défense est très bonne, la défense tient bon. Ils jouent grand, ils jouent parfois petit, et la défense tient vraiment bon. Je m'attendais vraiment pas à avoir une équipe des Lakers menée par LeBron James dominante défensivement.
Mais pas menée que par LeBron James en défense. Justement, c'est assez intéressant. Oui, tu vois, tu m'as mentionné Dwight Howard et Rajon Rondo. On voit que Dwight Howard est très très vocal. Il s'exprime beaucoup. Rondo, c'est pareil. Il y a un vrai collectif et ça participe aussi de ce que tu disais Ben, où LeBron James laisse son équipe vivre la plupart des moments. Chaque joueur rentrait dans son match en essayant de les impliquer. Anthony Davis, bien sûr, par séquence, et ça l'aide beaucoup. D'ailleurs, je pense que LeBron James aussi peut se permettre de se reposer, contrairement à ce qu'il pouvait avoir à faire avec les Cavs, pour ensuite mettre un coup d'accélérateur ou prendre le contrôle d'un match. L'illustration, c'était ce match 5 là pour conclure la série face aux Nuggets, où sur la fin, il enchaîne un drive, un step back, un 3 points à 2 minutes de la fin, avec ce regard de tueur vers le banc des Nuggets pour dire écoutez, j'ai décidé que ce soir c'était fini. C'était fini.
Mais même le 4 hein, au final, même le 4 où il décide de prendre Jamal Murray en défense.
Oui, en défense.
Ouais. Parce que personne n'avait de solution pour lui. Il arrive, enfin, le shot making dont a fait preuve Jamal Murray sur cette série-là. Bon, on en reparlera bientôt, mais enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et, jusqu'au moment où LeBron James s'est dit, bon, mais écoute, il y a personne pour le stopper. Bon, ben je vais me mettre dessus. Et ben finalement, ben le simple fait que LeBron James se soit mis sur lui, ben ça a totalement dérouté le jeu offensif de Denver, qui et Jamal Murray s'est vu obligé de lâcher la balle plusieurs fois. Et ben du coup, les Lakers ont réussi par ce petit ajustement que LeBron a décidé au moment où il sentait qu'il en avait marre, tu vois, que voilà, on passe devant et on termine ça proprement.
Donc ce qu'on peut retenir, c'est peut-être un LeBron un peu moins jupitérien. Et je pense, pour un peu conclure tout ce qu'on a dit, c'est, je pense personnellement que c'est assez positif parce que ça a des limites. On a bien vu avec ses anciennes équipes des Cavs notamment qu'un LeBron jupitérien, il y a un moment où face à un très haut niveau de compétition, bah ça pose problème parce que on peut pas, même pour un titan qu'est LeBron James, on peut pas tout faire tout seul. Et là, moi aussi, je vous rejoins défensivement et puis au niveau, bref, cette équipe, elle est extrêmement séduisante. Alors on est obligé aussi de parler des Nuggets. La dernière fois qu'on avait vraiment parlé des Nuggets, ils étaient menés 3-1 contre le Jazz. Mmh. On avait fait un espèce de parallèle avec les Sixers, deux équipes qui étaient vraiment au plus mal. Alors les trajectoires ont été totalement différentes après ce podcast. Hein, les Sixers ont sombré. Au revoir à Brett Brown notamment. On aura le temps d'en parler. L'intersaison sera longue. Et les Nuggets, eux, ont fait un parcours assez satisfaisant, je pense, pour la franchise. Qu'est-ce qu'on retient de ces Nuggets? Alors,
satisfaisant, Ben, t'es dur. Hein.
Je cherchais mes mots. Tom est impitoyable, hein. Il a pris des vacances, il est impitoyable. Je cherchais mes mots à un plutôt très positif, hein, cette qualification, avec notamment l'élimination des Clippers. On est revenu là-dessus la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, on aura le temps d'en discuter pendant l'intersaison, mais rapidement, on en retient quoi de ces Nuggets version 2019-2020?
Moi je trouve qu'ils ont été plaisants. Ils ont fait preuve de très bonnes caractéristiques mentales. C'est une équipe qui a commencé la bulle avec un 5 de grand parce qu'ils avaient aucun guard disponible. Enfin, on s'en souvient, ça paraît loin, mais enfin l'époque où Bol Bol était ailier.
Poste 3, ouais.
Poste 3, tout ça. Et ben ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir un peu l'avènement de Michael Porter Jr. dans des séries de playoffs, donc face à un haut niveau d'opposition. Et ils ont réussi à faire quelque chose de bien sans Will Barton, qui était l'un de leurs 4 meilleurs joueurs sur la saison, quoi. Donc c'est de bonnes occurrences. Par contre, je suis un petit peu plus inquiet pour Gary Harris, qui même s'il est bon défensivement, peut-être que à l'avenir, bah, il sera peut-être plus indispensable, puisque je vois bien par exemple Will Barton s'intercaler dans le 5 où il est.
Ouais, bah ça on l'a bien vu avec quand on mentionnait rapidement que Jamal Murray devait lâcher la balle rapidement en début de possession, qu'il avait besoin de création à l'extérieur. C'était pas sur Gary Harris qu'on pouvait compter. On a vu des bonnes minutes de Pigé Dozier, de Monté, ouais. Morris, de différents joueurs, mais effectivement Gary Harris, ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, moi aussi je veux saluer la force mentale de cette équipe qui a quand même joué jusqu'au bout, même le cinquième contre les Lakers, même quand LeBron avait décidé que c'était fini. Ils étaient encore là, ils se la sont encore donnés. Jeremy Grant, encore une fois, très très bon. On en parle souvent, on l'aime bien. C'est un peu un chouchou, je pense, chez Doug Hebdo, Jeremy Grant, qui a vraiment contribué. L'avenir est plutôt radieux. Il faudra voir comment ça va s'équilibrer, comment Mike Malone va pouvoir agencer tout ça. J'ai quelques réserves aussi sur ce qui a été fait par Mike Malone, ce manque d'ajustement justement sur cette série face aux Lakers. Mais ça reste quand même un super parcours. Ils ont fermé des bouches, certaines de chez Doug Hebdo d'ailleurs. Donc,
c'est pas bien m'attaquer à Adrien, mais oui, peut-être.
Ouais. Non, mais bon.
Non, je suis d'accord. Jeremy Grant qui est, je pense, même un chouchou globalement des fans NBA jusqu'au moment où il va prendre 80 millions aux Hawks et que tout le monde va se dire, ah, mais c'est peut-être un peu trop. Non, grosse série de Jeremy Grant qui avait été, l'image a beaucoup tourné, hein, qui a été, LeBron lui a parlé après la série. Je pense globalement, oui, pour un peu prolonger ce que t'as dit, Adrien, ils ont fermé des bouches. On a vu que Jamal Murray, c'est une des questions, notamment de, alors, je vais devoir dire des pseudos dans ce,
bonne chance.
Dans cet épisode, j'ai pas le talent d'Adrien pour ça. Donc ça va être un petit peu difficile. Et en plus, @cronier_titouan, tu nous avais posé des questions dans le safety, podcast NFL Dunk Hebdo. Il faut aller l'écouter. Petite publicité. Jamal Murray, définitivement un top player, point d'interrogation. Eh bien, ça, on en discutera dans les conclusions des playoffs pour le DH20. Comme ceux qui nous écoutent ont déjà entendu parler du DH20. Classement des 20 meilleurs joueurs par vous, les auditeurs. Et je trouve, on est assez d'accord pour se le dire au sein de la rédaction, il s'est tellement passé de trucs cette année qu'il faut absolument revenir dessus à cause de ces playoffs. Il s'est passé trop de trucs, dont l'éclosion d'un Jamal Murray. Mais en quelques mots, messieurs, on est d'accord pour dire que Jamal Murray, il a passé un cap là. Clairement, sur ses playoffs, dans ses trois séries incroyables, il a pris une autre stature.
Ouais, bah c'est ce qu'on on avait un peu parlé de ça dans l'épisode sur les Nuggets au milieu de la saison, il me semble, où on se posait la question de comment les Nuggets peuvent progresser, et on disait il faut que Jamal Murray devienne peut-être le meilleur joueur des Nuggets, que Jokic soit plus le meilleur joueur en fait, et on en doutait plutôt fortement d'ailleurs. Et enfin, en tout cas, on se disait qu'il allait avoir besoin de temps. Il était sur un contrat max, mais c'est un jeune joueur. Et ben voilà, sur ces playoffs, le meilleur joueur des Nuggets, c'était Jamal Murray, offensivement au moins. Donc, et ça leur a permis de franchir un vrai cap. Voilà, bravo à lui.
Après, Jokic était énorme aussi, hein. Mais, je trouve que les deux ont apporté de manière équivalente, tu vois. Même si Murray était vraiment plus dans le, je pense que c'est lui qui a fait la bascule, puisque on va dire que Jokic, oui, a toujours été fort, mais c'est
il a tenu son rang, Jokic.
Voilà, tenu son rang, mais Jamal Murray a vraiment été le joueur bascule en montrant des qualités, des capacités qu'il avait jamais montré sur une telle durée, un tel enchaînement en fait. La capacité déjà sur son premier pas et son dribble. Ça, c'est quelque chose qu'il a à chaque fois. Enfin, je me souviens, il y a un an ou deux ans, j'avais fait un profil sur Jamal Murray, et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est le fait qu'il prenait énormément de shoot à distance pour deux raisons. La première, c'était par rapport au dribble end-off qui jouait souvent avec Jokic et qui était plus au niveau de la tête de raquette. Donc du coup, dès qu'il recevait le ballon, il était déjà dans la zone à mi-distance, il n'avait pas allé au cercle. Et c'était une problématique aussi de handle où il n'arrivait pas à se défaire de ses adversaires. Là, bah, il a montré une qualité technique sur son handle. Personne n'arrivait à rester en face de lui, quoi. Jusqu'à ce que LeBron James s'y colle, mais les joueurs n'arrivaient pas à rester en face de Jamal Murray. Et ça change tout en fait. Si il peut traverser quelqu'un, ben après ça va tout changer, notamment au niveau de la finition, et ça va lui ouvrir beaucoup plus de choses, même au niveau de son playmaking. Il trouvait des passes extraordinaires. Enfin, Jamal Murray, il a été digne des grands initiateurs offensifs sur ces séries de playoffs.
Ouais, juste pour revenir rapidement sur Jokic, excuse-moi Ben, mais genre effectivement peut-être qu'on reste sur l'impression, il a un peu souffert dans cette série face aux Lakers à la fin.
Ouais.
Parce que physiquement Dwight Howard lui a proposé un combat qui était assez compliqué. Jokic s'est laissé avoir dans quel assez travers de laisser traîner les bras, des fautes qui ont été sifflées, sont parfois contestables, mais qui sont des fautes bêtes évitables en tout cas. Donc peut-être que cette impression nuance, mais effectivement quand même sur l'ensemble des playoffs, il a quand même été, il a été tout aussi énorme que ce qu'on attend de Nikola Jokic.
Le nom de Dwight Howard cité 5 fois dans un podcast qui parle de finale NBA. Quelle époque formidable, messieurs. Quelle époque incroyable. Non, je suis assez d'accord sur votre constat. Je pense que on a vu déjà une chose chez cette équipe, je trouve, et c'est à noter chez une jeune équipe, c'est une capacité à répondre au moment présent, parce qu'ils sont donnés morts deux fois quand même dans ces playoffs, et enfin trois fois. Bon, la troisième fois, ils étaient effectivement mort contre les Lakers, mais les deux premières fois ils ont réussi à se relever. Là il y a aussi la révélation qui a la petite hype aussi chez certains membres de DH. Il y a la hype également Michael Porter, bon, qui était en délicatesse contre LeBron en défense, c'était assez triste à voir. Bon, c'est un peu le cas de tout le monde, mais je pense globalement que cette équipe de Denver, on a eu la certitude, et c'est pour ça que je reviens à ce parallèle entre Sixers et du coup les Nuggets. On a des certitudes qu'on n'a peut-être pas du côté des Sixers. C'est ça aussi, je trouve. C'est que maintenant, ok, on a vu ce qu'ils pouvaient faire. Et Adrien l'a sous-entendu, je fais partie des gens qui étaient extrêmement critiques des Nuggets. Et là, maintenant, eh bien oui, je pense qu'on peut construire autour de cette... alors peut-être pas gagner un titre dans l'état, mais en tout cas, on a une solide équipe à l'ouest. Quelque chose à rajouter, les gars, sur Denver? Ou alors, on passe du côté de l'est?
Et voyageons.
Voyageons.
Alors, le Heat de Miami, donc quand même, c'est quand même une performance historique, parce qu'une tête de série numéro 5 en finale NBA, ça n'arrive pas tout le temps. Ce qu'elle fit donc pour les finales NBA.
Pas eu un parcours facile.
En plus, 4-2 Ils ont disposé 4-2 des Celtics. Alors, on va continuer à parler des éliminés avant de revenir sur Miami et du coup de s'envoler pour les finales NBA. On va parler de Boston. Toujours une question de Hat Cronier Titouan qui nous demande 3 finales de conf en 4 ans. La saison de Boston peut-elle être considérée comme réussie ou est-ce que le fait de ne pas avoir pu passer Miami, ce qui semblait à leur portée au vu du déroulement de chaque match, classe automatiquement la saison des 6 dans la colonne échec? Alors, bilan global de cette saison des Celtics, qu'est-ce qu'on en retire? Une finale de conf, une série âprement remportée contre les Raptors en 7 au tour précédent. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Tom, de cette saison des Celtics?
Moi, je trouve que la saison a été positive dans le sens où ils ont pu identifier pas mal de choses. Donc, avant, on avait des questions sur Jason Tatum, surtout sur la saison d'avant qu'il venait d'effectuer. Et ben là, Jason Tatum, il a vraiment changé de dimension, merci. Il a changé de dimension, il est rentré peut-être dans le, allez, top 10, top 15 NBA. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, bon, on en revient dans le DH20, mais c'est clairement une star qui est sur le point de peut-être devenir une superstar de la ligue. Je pense que on va arriver dans un triptyque avec Luka Doncic, Zion Williamson, entre guillemets, et Jason Tatum pour les joueurs du futur moderne, quoi, les joueurs modernes du futur. Donc, il est rentré dans une autre stratosphère. On a vu aussi l'avènement de Jaylen Brown aussi sur ses playoffs qui, comme à chaque saison, hein, il montre de nouvelles choses, il montre de nouvelles qualités et on se demande jusqu'à jusqu'où il va s'arrêter. Et aussi, on a vu malheureusement aussi quelques limitations, notamment du côté de Kemba, sur les questions que tu posais, t'as toujours posé Ben à ce niveau-là. De Kemba Walker, le fit dans ce niveau-là, on a vu que c'était un joueur qui était beaucoup ciblé. Il était ciblé par Toronto pour l'enlever du jeu. Il a aussi été ciblé par Miami, notamment pour des mismatchs avantageux pour Jimmy Butler et pour les joueurs de petite taille, puisque voilà, il pouvait pas être caché sur le terrain et il était souvent ciblé par les défenses. Donc du coup, ça peut poser la question, au final, est-ce que Marcus Smart, même si c'est un moins bon joueur offensif, n'a pas plus de valeur au niveau playoff, puisque ce que t'apporte Kemba Walker peut être remplacé par l'un des deux Jay?
Bonne question. Effectivement, moi, pour répondre aussi à la question, je vais pas revenir, effectivement, les deux Jay, très très bons, impressionnants. On se demande quand ils vont s'arrêter, effectivement. Pour la question du est-ce que c'est une saison réussie, moi, je comprends le goût amer des paroles d'Alan depuis l'élimination. C'est vrai que d'un point de vue de, si on se met du point de vue des fans des Celtics, c'est une saison réussie dans le sens où on a atteint les finales de conf, on a des certitudes comme tu disais, enfin des réponses en tout cas comme tu disais Tom. Mais d'un autre côté, ils étaient prenables ce hit était prenable par Boston et les années qui arrivent, alors certes, on a des très bonnes bases et c'est toujours mieux, c'est mieux que rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, voilà, il va y avoir les Nets qui vont arriver en grande pompe à l'est, Milwaukee qui sera toujours là, qui va progresser, Miami sera toujours là également. Enfin, ça va être la bataille va être compliquée. Il y avait peut-être une fenêtre pour atteindre les finales et ensuite, une fois que t'es en finale NBA, tout est possible. Surtout que les Celtics sont pas démérités cette saison face aux Lakers en saison régulière. Donc même si ils n'auraient pas été favoris, loin de là, mais il peut y avoir un petit goût amer en cette défaite parce qu'il y avait moyen quand même. Ils menaient sur 3 matchs où ils mènent à l'entame du dernier quart.
Mais c'est surtout que tu vois, la série elle se joue à quoi? Quand tu fais le cumul des totales des points, la série se joue à 2 points quoi.
Ouais, et à chaque fois ça a tourné. Enfin à chaque fois, ça a tourné plus de fois en faveur de Miami, 4 fois donc.
C'est ça.
Et ça a suffi quoi.
Ce qui a lancé le grand débat dans notre conversation, est-ce que Boston est une meilleure équipe que Miami? Alors, on n'a pas le temps de répondre à ça, mais il y a eu des farouches oppositions.
C'est ça.
Pour répondre à ça, alors moi, j'ai 2 points de vue. Je pense que pris toute seule cette saison-là, non, c'est pas vraiment un échec. C'était la saison de l'après Kyrie. Faut se rappeler qu'il y a quoi? Il y a 14 mois, 15 mois de ça, on fait un épisode les Celtics, l'autopsie d'un échec, où on est très dur avec les Celtics. Ils étaient annoncés très fort en 2018-2019. Ils se cassent la tête contre Milwaukee et là, on n'espérait pas les revoir, je pense, très vite à ce niveau-là. De ce point de vue-là, c'est une réussite. De l'autre, et moi du coup je m'appuie sur l'autre point de vue, c'est le début du tweet de l'auditeur, 3 finales de conf en 4 ans. Et ouais. Je trouve que quand tu prends sur l'intégralité, alors on peut dire qu'il y en a 2 contre LeBron, mais sur les 4 dernières années, il y a 3 équipes qui vont en finale NBA à l'Est et il n'y a pas Boston, en fait. Et je pense qu'il peut avoir du côté des Celtics peut-être cette frustration. Alors certes, je discutais notamment, je pense, avec un fan des Celtics sur Twitter ce matin. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Adrien, si tu te qualifies cette année, tu sais pas ce qui peut se passer. Les Lakers sont a priori plus forts. Mais on a vu avec les Raptors l'année dernière, un coup du sort, ça arrive très vite. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il peut avoir cette sensation d'inachevé. Et si je dis ça, c'est parce que moi, il y a un truc qui m'énerve toujours en playoff. C'est quand les équipes sortent et qu'elles mettent en avant l'âge de leurs joueurs. Parce qu'encore une fois, je vais m'appuyer sur ce que t'as dit, Adrien. L'année prochaine, on a le Heat qui vraisemblablement sera là. On a Brooklyn qui débarque et on a Milwaukee qui sera avare de revanche. On sait pas, c'est pour rebondir sur une autre question, saison prochaine, les Celtics en finale de conférence minimum, et bah ça on sait pas, parce que je sais même pas si dans...
Je mettrai pas de l'argent en tout cas.
Voilà, pareil. Donc je comprends cette espèce de mélange entre satisfaction et frustration.
Après c'est le plan aussi de Danny Ainge, hein. Danny Ainge c'est pas le mec, enfin on l'a vu hein, avec les années qui ont passé, tous les tours de draft assimilés, le gars il a dit qu'il voulait être bon sur 10 ans mais il a pas, c'est ça le truc tu vois, il a voulu être bon dans la longueur et jamais vraiment faire all-in pour être très bon une année. Il a fait all-in une fois, il a fait all-in avec Kyrie, je pense, et malheureusement, ça a fait pchit pour lui, quoi. Mais l'an dernier, je trouve pas qu'il a fait, enfin, l'an dernier, tu parles de la saison qui a commencé ou la dernière saison de Kyrie?
La saison après celle où ils vont en finale de, bah, l'année dernière, oui.
L'année dernière? Non, l'année dernière, ils ont pas fait all-in puisqu'ils avaient encore ils avaient des assets à utiliser qu'ils n'ont pas utilisé. Notamment, tu vois, avec tout le, ouais.
Oui, All-in, c'est pas notamment, la même définition d'All-in.
Faire venir Anthony Davis, un truc comme ça, tu vois. Alors oui, il y avait, oui, il était sur le même contrat que Kyrie, c'était pas possible, nanana. Mais tu vois, il n'y a pas eu de gros move alors qu'il y avait des assets. Moi, c'est de ce côté-là que je parle All-in.
Ok, ce qui fait que le All-in va être un peu plus difficile parce qu'au fil des années, quand même, les fameux assets des Celtics se diminuent, logiquement. Hein. Ils vont pas l'avoir pendant 15 ans, tous les tours de draft de Brooklyn, même si là, ça a plus trop de valeur. On va peut-être, encore une fois, les Celtics, je vous livre un secret de Poéchinelle, moi, j'anticipe une intersaison très longue. Donc, je pense que tout ce dont je dis qu'on aura le temps de parler, si on reprend en février, on aura le temps d'en parler si on a 4 mois devant nous. Peut-être on peut enchaîner, à part si vous avez quelque chose à dire sur les Celtics, sur ce Miami Heat avec
Marcus
une question.
Smart.
Ah, Marcus Smart, le grand amour de Tom. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marcus Smart?
Vivement qu'il arrive à Memphis.
J'allais dire, je le veux bien à côté de la Vine, mais vas-y. Non mais gros Marcus Smart, mais qui a fait quand même quelques erreurs sur l'attaque de la zone. T'en parlais, je vais aller très très vite parce que on va pas s'éterniser, mais il y a eu voilà une vraie guerre tactique dans cette série, ouais. Avec notamment la zone défensive de Miami, on va y revenir je pense, et je crois que c'est le match 4 où Marcus Smart fait 3 pertes de balles assez vitales parce qu'il pénètre et il va pas fixer le grand, donc il y a Adebayo qui est en bas dans la zone et fait des pertes de balles en faisant des passes, enfin voilà, il doit encore progresser sur cet aspect là offensivement, mais par contre pour tout le reste, le cœur que met ce joueur, la défense qu'il est capable de mettre, c'est un bonheur.
Et partout.
J'ai toujours trouvé, alors on va croire que je suis l'empêcheur de tourner en rond, j'ai toujours trouvé que Marcus, enfin bref, il y a d'autres joueurs qui ont pas le même profil mais qui sont un peu dans la même veine et qui sont un peu vus plus négativement qu'à Marcus Smart. Je dis juste ça comme ça, je trouve
Chris
que
Dunn.
Chris Dunn.
Certains joueurs ne bénéficient pas de ce crédit là, mais continuons sur Miami avec, ouais, comme je l'ai dit, une petite pique on va dire de Wade Circus Shot. Bon pseudo. Un peu de respect pour Miami maintenant, car bon, dans vos podcasts, c'est surtout les Bucks trop nuls et Boston favoris. Je trouve ça un peu dur parce que, en l'occurrence, Boston était favori. Enfin, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est les bookmakers. Et les Bucks n'ont pas été bons. Je trouve qu'on est quand même, enfin, si on réécoute notre preview de Heat Indiana, et même, bon, vous avez pas accès au off, mais on a quand même, ça fait un bail que certains membres du site, dont Ilias, sont dans le train Miami. J'ai été trop modeste pour me citer, Tom. Et moi. Quand même, cette équipe de Miami, c'est une surprise, mais enfin, on la voit venir quand même. On la voit venir.
Surprise, ouais, c'est... Enfin, pour moi, c'est surprenant qu'ils aient un tel parcours en ayant perdu le même nombre de matchs que les Lakers. Pour moi, c'est surprenant. Tu vois, on arrive... Les deux équipes arrivent en finale NBA et les deux équipes ont perdu 3 matchs. Pour moi, c'est très surprenant. Mais après, au final, quand tu vois le contenu des matchs et quand tu regardes l'équipe jouer, tu te dis que bah ouais, il y a quand même du niveau quoi, il y a un sacré niveau et c'est pas une équipe qui a, moi je trouve que Miami c'est pas une équipe qui a eu de la chance, c'est une équipe qui est allée chercher ses victoires et qui mérite d'être en finale de conférence puisqu'elle a été l'équipe la plus régulière de l'Est sur les playoffs quoi dans la performance. Alors même s'il y a eu des hauts et des bas pour chacun des joueurs, mais ils ont toujours su trouver des solutions quand un des plans ne fonctionnait pas. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cette équipe, c'est que c'est une équipe multifacette et qui a tellement de cordes à son arc que le jour où il y a une corde qui est cassée, ben t'en as une que tu peux remonter et tu gardes quand même ton arme quoi.
Encore une fois, le Heat, je trouve, c'est une illustration d'un sujet qu'il y a dans tous ces playoffs d'ailleurs. Du fameux point des équipes qui passent un cap en playoff après une saison régulière tranquille. Miami, c'est une équipe qui tout au long de la saison a essayé beaucoup de choses, la zone notamment, puis elle a disparu pendant la fin de la saison régulière pratiquement, et quand ils en ont eu besoin, ils peuvent la réutiliser dans les playoffs. Je trouve que ça illustre ça. C'est une équipe qui a travaillé tout au long de la saison, qui a été sérieuse, qui a multiplié tactiquement tout son panel de solutions, comme tu disais Tom. Et là, on voit que ça paye, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a fait criser certains fans des Celtics, pour ne pas nommer Alan, un soir c'est Tyler Herro, un soir c'est Duncan Robinson, un soir c'est Jimmy Butler, un soir c'est Dragic, un soir c'est Bam. Ouais. Et voilà, et comme tu dis, quand il y en a un qui faillit, les autres sont là. Il y a quelque chose un peu des... Alors sans aller jusqu'au bout de la comparaison, mais des Pistons de 2004, où il n'y a pas vraiment une claire grosse star qui phagocyte tout le jeu, mais quand tu as besoin de mettre des paniers, donc c'était Bill Ups à l'époque, là c'est un Jimmy Butler. Et après le reste, ça peut venir, la foudre peut venir un peu de n'importe où, la foudre entre guillemets. Après, les profils sont différents, c'est pas le même basket, etc. Mais il y a un peu ce truc là d'un collectif avec plusieurs petites lames plutôt qu'une énorme épée à deux mains.
Ouais, carrément, ouais, qu'un sabre. Mais assez d'accord avec ton propos. Le seul truc que moi qui me, je trouve que sur lequel on insiste peut-être pas assez, hein, nous et les autres. Hein, mais je trouve qu'en fait l'équipe de Miami qu'on a vu en saison régulière, alors oui, ils ont testé pas mal de trucs, mais l'équipe de Miami qu'on a vu en saison régulière et l'équipe de Miami qu'on a vu dans la bulle, c'est pas la même équipe. Jay Crowder, c'était pas le même joueur. Goran Dragic, même joueur. Il y a des choses qui ont changé en fait avec cette équipe-là. Même Iguodala, le Iguodala de saison régulière et le Iguodala des playoffs, ce sont pas les mêmes joueurs. Donc je trouve que même si c'est la même équipe, c'est ça. Même si tu vois, c'est la même équipe, on a l'impression que c'est le même effectif que lors de la fin de la saison. Ben l'apport et le niveau des joueurs n'est plus le même et du coup ça te change drastiquement le niveau de l'équipe, tu vois. Dragic, enfin, s'il avait fait ça pendant toute la saison, Miami serait pas cinquième, je pense, et il serait sixième homme de l'année, quoi.
Ouais, mais il se serait fait découper en deux.
et là je vais faire une transition, je suis fier de ma transition vers la... On va basculer un peu vers la preview de cette série, donc de cette finale NBA, parce que pour moi, ce que tu dis, Tom, ça renvoie un peu à la question de @TheBrundir qui nous dit « La bulle va-t-elle avoir un impact sur le déroulé de ces finales ?» Car je ne sais pas vous, mais moi, les matchs dans la bulle ont été vachement plus intenses et intéressants que je ne le pensais. Et je trouve que cette métamorphose du Heat, ça a à voir aussi avec la bulle. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est savoir de tout ce qu'on voit dans ces playoffs, qu'est-ce qu'il y a à mettre sur le crédit de la bulle et de ce contexte particulier, et qu'est-ce qui est entre guillemets réel. Et je trouve qu'il y a plein de phénomènes intéressants. Par exemple, vous avez cité leur nom, Tyler Herro, Duncan Robinson. Pour moi, ça, il y a un petit effet bulle, je m'explique. C'est The Athletic qui montrait que, notamment, dans les demi-finales de conf, les quatre équipes les plus jeunes ont gagné, ce qui est une anomalie historique. Et je trouve que, par exemple, bah, pour ça, un jeune joueur, le fait de jouer sur terrain neutre, il se fait moins rattraper par les playoffs. Et notamment, pour moi, ça va être un impact clair sur les finales, là où, sur terrain, dans un contexte normal, pour moi, les Lakers ont un avantage monstre parce que LeBron, parce que d'autres joueurs d'expérience, on les a cités. Là, il y a cette espèce je sais pas, de jeunesse, de fraîcheur qui ne tape pas un mur en playoff, qui a pas eu à jouer un match difficile au TD Garden, qui a pas eu à aller jouer en terrain adverse chez les Bucks.
Enfin, t'as pas le transport aussi. T'as pas le transport, t'es dans la même salle, y a pas mal de choses.
Cet aspect-là fait que, selon moi, l'effet, le Heat, et c'est, je crois que c'était sur True Hoop qu'il y avait cette analyse-là, le Heat est l'équipe qui profite le plus de cet effet bulle.
Après, il y a aussi des notions de, enfin, ça va peut-être faire un peu cliché, mais des notions de camaraderie. de groupe. Mm-hmm. Si t'es dans un groupe où le groupe vit mal, au bout d'un moment tes coéquipiers tu peux plus les saquer, et forcément tu vois, là où par exemple pouvoir sortir et ne pas avoir des coéquipiers, ça va te permettre d'avoir une échappatoire, et du coup si ça se passe pas bien, même tu fais le travail avec eux, mais après t'as fini et t'as de l'air après. Là, le fait d'être dans la bulle, ben tu es tout le temps avec eux, et puis si l'alchimie n'est pas bonne, ben tout de suite on le ressent. Alors que cette équipe de Miami, t'as vraiment l'impression qu'ils ont fait corps, et qu'ils sont vraiment hyper concentrés sur leur but, et ils sont pas venus dans la bulle pour rien, quoi.
Ouais, bah on se retrouve dans les deux équipes en finale, les deux équipes entre guillemets en mission. On sentait ce scénario-là, contrairement à, bon, on va pas lui retomber dessus parce qu'il a assez pris, mais leur retomber dessus aux Clippers avec ce fameux non, c'était pas la gagne ou jamais, etc. Là, t'avais les deux équipes qui se sont dit au début de la bulle, bon, on y va, on joue le va-tout. Et pour revenir sur ce que tu disais, Ben, alors je vais pas aller au bout du parallèle parce que ça ne parlerait pas à grand monde, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi en ce moment dans l'e-sport. Où les compétitions qui se faisaient donc en live, pareil dans des salles, bon à plus petite échelle, se sont faites en ligne logiquement donc ces derniers temps, et on a vu pas mal d'émergences justement de jeunes équipes qui ont pas cette pression du on stage, donc la même pression que là de la salle, du public et du nom, parce que quand tu vas comme tu disais au TD Garden ou quand tu vas au Staples ou quand tu vas dans des grandes salles mythiques, l'ascendant psychologique il existe, quand le joueur qui met le maillot de la grosse équipe, il se sent investi du truc, et il y a un côté, les grosses équipes elles gagnent tout le temps dans ce contexte là donc tu joues petit bras quand t'es l'équipe d'en face, là où on a l'impression que le Heat, pour prendre cet exemple là joue complètement décomplexé, les Tyler Hero, Duncan Robinson sont en mode bon de toute façon on peut le faire, on a vu qu'on pouvait le faire, donc vas-y on joue un vrai va-tout, et je pense qu'il y a un petit biais mental qui n'est pas là dans la bulle et qui peut jouer au-delà, en plus de l'aspect domicile extérieur qui aussi se voit beaucoup moins. Ça c'est clair et net, on en a parlé plusieurs fois, mais là les séries où quand il y a 3-1, où on se disait, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut reprendre sur l'équipe de Denver, sur toutes ces séries à 3-1, où à 3-1 on se dit c'est mort parce qu'à un moment tu vas jouer trop de matchs contre l'autre équipe, enfin chez eux, et ça va être compliqué. Là t'es toujours en terrain neutre, du coup il y a vraiment, on remise à zéro à chaque fois, et c'est aussi ce qui a permis aux Celtics d'à chaque fois remettre les choses à zéro, les choses à plat, et quand ils sont revenus à 3-2, il y a eu un petit moment de doute, je pense, du côté du Heat aussi à ce niveau-là.
Ouais. Le Heat qui a gagné 3 séries en étant à l'extérieur. Hein.
Tu vois, par exemple, ça, à quel point c'est reproduire ça dans un environnement normal.
C'est vrai.
Et quel professionnalisme d'Adrien qui n'a même pas fait de pub pour son podcast Sauvegarde on mort, il a parlé d'e-sport, et que c'est quel professionnalisme incroyable. Mais oui, clairement, moi c'est un truc, clairement, moi quand j'ai lu cet article des Athletics, je me suis dit c'est du pain béni pour les jeunes joueurs et peut-être aussi pour les équipes où il n'y a pas de tête d'affiche, de se dire là on fédère, on est un groupe et on avance. C'est peut-être bateau comme tu l'as dit Tom, mais je trouve qu'il y a de ça, et je trouve aussi que ça, sans encore une fois reparler d'eux, c'est aussi un désavantage pour les équipes qui ont contre-performé, parce que alors on se moque du public des Clippers souvent, mais je pense que dans un match 7, potentiellement, même si c'est devant la plus folle des salles NBA, les Clippers auraient peut-être eu plus un sentiment d'urgence devant une salle avec des gens. Là où je pense que parfois la bulle peut avoir l'effet pervers d'atténuer l'enjeu. Et je pense qu'il y a peut-être eu de ça pour les Clippers. On referme la bulle Clippers et on ouvre la grande bulle de la preview de cette série avec quelque chose qui est revenu, les gars, chez nos auditeurs. C'est le cas de @julesmorel02, le cas de Flying Flow ASF et le cas de Monsieur Dash 111. C'est l'idée selon laquelle le Heat serait potentiellement, c'est souvent tourné en forme de question, le pire match-up possible pour les Lakers. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Oui, c'est le seul qui reste. Non, mais enfin, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui a été la meilleure à l'Est. Alors oui, si on prend les entre guillemets les niveaux plafonds potentiels de chaque équipe qui était à l'Est au moment où on a débuté les playoffs. Alors peut-être que le Heat c'est le moins flashy, mais aujourd'hui, vu les playoffs qu'ils ont fait, clairement. Et puis il y a quelque chose aussi que le Heat a que les Lakers n'ont pas rencontré du coup à l'ouest dans leur playoff, ce sont des joueurs à l'aile capables de défendre, de sanctionner, de tirer, de créer. Ça, c'est quelque chose que les Lakers n'ont pas pu avoir contre eux, quoi.
Mais ils n'ont pas joué les Clippers.
Ils ont pas joué, ils ont pas joué les Clippers, mais voilà, c'est toutes les équipes manquaient d'un toutes les équipes que les Lakers ont joué manquaient d'un joueur dominant à l'aile qui pouvait faire quelque chose. Là, le Heat a vraiment une équipe construite pour embêter les équipes qui ont de bons ailiers. Ils ont plein d'ailiers.
Ouais, non, mais il y a les ailiers, puis je pense qu'aussi dans la question des auditeurs, il y a la question du personnel là que t'évoques, il y a les joueurs aussi pour aller, alors là, défendre dessus, c'est un grand mot parce que c'est LeBron James dont on parle, mais il y a de quoi imposer un défi physique assez régulier entre Jimmy Butler, Jay Crowder, André Iguodala sur à LeBron.
Solomon Hill, tu vois, enfin ils ressortent voilà. Solomon Hill, t'as Derrick Jones Jr. qui est peut-être un peu fin pour LeBron, mais qui a le côté longiligne et très athlétique, tu vois. Donc il y a vraiment énormément
de combinaisons possibles. Et pour Anthony Davis aussi, il y a Bam.
Aussi.
Il y a le profil de Bam est un pivot grand, mobile, qui est... Alors on verra comment les Lakers vont jouer, parce que l'avantage des Lakers, c'est qu'ils ont cette possibilité, et on l'a vu contre les Nuggets, de jouer à deux grands pour pouvoir forcer le pivot adverse, en l'occurrence c'était Jokic, à être sur Dwight Howard ou Javale McGee, pendant qu'Anthony Davis jouait un poste 4. Donc on va voir comment ils vont le jouer face aux Heat. Mais effectivement, Bam Adebayo a le profil le plus embêtant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas le plus complet, qui a le plus d'outils pour jouer face à face avec Anthony Davis, même si Anthony Davis est dans une autre stratosphère, évidemment.
Ouais. Surtout que le Heat, on les a vu un peu douter, au match 5, un peu quand il y avait Cantor, puisque avec Cantor sur le terrain, ils ont eu une autre stratégie qu'avec Tice. Là où Tice, il continuait à switcher dessus, avec Cantor, ils pouvaient pas switcher dessus, et ça forçait leur système défensif. Là, on va voir quelle approche auront les Lakers s'ils arrivent à jouer avec deux grands. Mais je pense que les Lakers, ils vont commencer avec deux grands, mais je pense qu'on aura beaucoup de minutes d'Anthony Davis, et vu que, McGee, tout ça va disparaître, et je vois plus des 5 à la fin avec par exemple même Markif Morris au poste 5 ou dans la raquette quoi avec Anthony Davis.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On enregistre tard aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que malheureusement Dwight va petit à petit disparaître de cette rotation, et je trouve quand même que c'est une petite surréaction de dire que c'est le pire match-up pour les Lakers, parce que je pense que c'est grandement inspiré de ce que t'as pu dire, Adrien, et aussi Tom, enfin, ce qu'on a pu dire depuis le début, c'est le côté un peu polymorphe du 8. Ce qui fait que tu te dis qu'il y a tellement de possibilités, celle-ci, elle pose problème aux Lakers. Mais après, il y a d'autres problématiques qui, moi, me font dire que non, c'est pas le pire match-up possible pour les Lakers. Alors, il y avait la théorie Clippers, décidément, on ne fait que les citer. Par exemple, moi, j'ai été chercher, historiquement, Butler. Alors, c'est bête, parce qu'il faudrait revoir le contexte de chaque match. Mais Butler, j'ai regardé depuis qu'il est, par exemple, All-Star, il pose pas vraiment de problème à LeBron. Enfin, il y a pas d'impact Jimmy Butler sur un LeBron. Anthony Davis, l'échantillon est trop petit, mais certes, c'est un profil intéressant, mais je pense pas que c'est pas non plus un mec qui peut complètement l'arrêter. Donc oui, Miami est un profil intéressant, mais en fait pour moi, c'est potentiellement le pire match-up pour toutes les équipes. C'est là où la question de Jules Morel est intéressante, parce qu'il nous demandait le Heat n'est-il pas le pire match-up possible pour les Lakers après l'avoir été pour Milwaukee et Boston. Ils ont tellement de potentialité le Heat qui peuvent être le pire match-up pour tout le monde en fait. On peut dire ça pour toutes les équipes.
Après le Heat,
versa,
carrément. Après le Heat, c'est à l'image de ces deux leaders, hein, c'est une équipe qui joue au-dessus de son niveau de talent intrinsèque. Puisque le Heat, je sais pas, hein, mais quand tu les regardes jouer, il y a un côté bestial en fait qui se dégage de cette équipe-là. Je sais pas comment expliquer ça ou comment dire ça autrement, mais moi c'est ce que je ressens en fait. Tu sens que c'est, enfin, il y a un petit côté sauvage en fait quand tu vois le Heat.
D'où le parallèle avec les Pistons.
non, clairement. Et c'est une équipe qui joue au-dessus de son talent et qui se donne les moyens d'arriver à gagner, même si en termes de talent il y a un déficit face à l'adversaire. Mais ça aussi, c'est peut-être un talent aussi ça.
Oui, totalement. Mais quand je disais vice versa aussi, c'est que le Heat, c'est potentiellement le pire match-up pour les autres équipes, mais les autres équipes sont potentiellement le pire match-up pour le Heat d'une certaine façon. Il y a un adage qui s'est pas trop vérifié pour le coup à l'Est pour le moment, mais qui a souvent été respecté dans les playoffs et qu'on évoque régulièrement dans Duck Hebdo, c'est celui du meilleur joueur sur le terrain. Là, il est probable que pendant les finales, les deux meilleurs joueurs soient du côté des Lakers.
Mais après, ils ont tout le reste, tu vois.
Ça dépend le rapport de force entre les deux, la différence entre les deux meilleurs et le reste, la différence entre ce cœur Heat et le reste des Lakers. Évidemment, ça va se jouer avec des différents ratios, etc. Mais potentiellement, on peut le lire dans les deux sens, c'est ça que je veux dire.
Non, clairement. Enfin, moi, je pense que ça va être intéressant de voir le jeu d'échecs que vont se livrer Vogel et Spoelstra dans cette série-là, puisque faut pas non plus nuancer le talent de ces coachs-là, que, même si on parle beaucoup plus de leur équipe et de leurs joueurs qu'eux, qui ont fait d'énormes playoffs. D'ailleurs, Spoelstra, enfin, on a vu que le fait que les Celtics soient allés en 7 matchs et que Toronto ait posé autant de problèmes aux Celtics, je pense que ça lui a donné pas mal d'idées pour lui après se faciliter son match-up, et il a bien profité de ça.
Ouais, surtout en début de série, mais on a vu, t'as raison de le dire, on a vu des playoffs avec des vrais choix stratégiques. On a vu des coachs faire des choses vachement intéressantes, surtout cette finale de conférence à l'Est, ouais, mais aussi à l'Ouest. Vogel, il y a eu de l'inventivité dans les rotations, dans les solutions tactiques qui ont été apportées. C'est très très intéressant d'un point de vue tactique ce qui se passe. Il faut aussi mettre en avant les différents coaching staff.
C'est vrai qu'on a eu des coachs de haut niveau, je pense. Il y a une question à laquelle on va répondre à la fin de l'émission sur les meilleurs coachs actuellement en NBA, mais la série Nurse Stevens, puis ouais. La série, c'est là où sans lui faire injure, c'est là où Budenholzer a clairement payé. C'est que là, on a vu que il est arrivé à un niveau où peut-être qu'il était peut-être un peu trop dogmatique. Bref, plein de choses sur Milwaukee où on pourra en discuter après. Pour revenir par rapport à Miami, oui, je suis assez d'accord avec le vice versa d'Adrien. C'est vrai qu'aussi dans leurs mauvais jours, le Heat a peut-être, et c'est là le revers de la médaille de s'appuyer sur un collectif, le jour où tout le monde est un peu en dedans, t'as pas cette capacité, c'est caricatural, mais d'avoir une superstar qui prend les choses en main. On l'a vu dans les matchs contre, c'est pas vraiment arrivé contre Milwaukee où ils étaient en pleine bourre, mais contre les Celtics, quand les Celtics ont trouvé quelques solutions, quand ils ont été très durs sur les close-out sur certains matchs, il y a eu des trous d'air de la part de Miami, de véritables trous d'air. Et ça, on peut se dire que du côté des Lakers, la puissance de feu d'un duo AD-LeBron leur empêche peut-être d'avoir ça.
Mais après, ce sont deux équipes totalement différentes, hein, dans le sens où, là où, par exemple, du côté des Lakers, les deux meilleurs joueurs de l'équipe sont obligés de... Enfin, construire tout offensivement. Bah, du côté de Miami, les deux meilleurs joueurs ne sont pas ceux... Enfin, leur qualité principale n'est pas forcément de scorer, en fait. Donc du coup, ça leur libère d'une certaine pression, puisque toute une partie du playmaking et du scoring peut être assurée par d'autres joueurs, parce que ça, c'est pas leur point fort. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, enfin, Jimmy Butler a beaucoup été critiqué pour ça, où dans certains matchs on l'a trouvé passif, notamment face aux défenseurs de Boston. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt intelligent, hein. Le gars attaquait les mismatchs favorables. C'est ce qu'on a vu un peu, par exemple, dans la série Nurse, Toronto, Boston, où par exemple t'avais des actions totalement bizarres où l'action veut qu'il y ait un switch, et après t'as Siakam qui se retrouve en post-up contre Marcus Smart. Mais à quel moment tu te dis que c'est une bonne option, ça, tu vois? Là où Jimmy Butler, lui, il ciblait. Ok, Kemba Walker, Kemba Walker sur le terrain, hop, on fait un petit mouvement, on switch dessus, j'ai l'avantage physique, soit je vais aller chercher des lancers francs, soit je vais aller au cercle. Tu vois, pourquoi aller attaquer frontalement en un contre un Marcus Smart, Jalen Brown et tout ça? Enfin, moi, j'ai trouvé plutôt intéressant là-dessus. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher, puisque à certains moments, je dirais pas le côté hero ball, mais le côté symbolique du meilleur joueur et initiateur de l'équipe, tu dois prendre tes responsabilités et attaquer les meilleurs joueurs adverses, un peu comme ce que fait LeBron James. Mais j'ai trouvé ça vraiment intelligent de sa part de ne pas aller s'empêtrer dans un duel pour montrer qu'il est le meilleur joueur et sortir totalement de son rôle et de ce dont l'équipe a besoin.
Mais je suis d'accord, pour moi c'est une évolution positive, parce que justement une des critiques que moi et d'autres pouvions faire à Butler ces dernières années, peut-être à Chicago et ensuite ce qu'il a pu montrer à Milwaukee ou aux Sixers, c'est que parfois justement essayer de rentrer dans un costume trop grand pour lui en termes de scoring, ce que tu viens de dire, de vouloir dominer seul avec le mouvement flashy, comme tu disais, à la LeBron. Jimmy Butler n'est pas LeBron James, et justement je trouve que c'est une preuve de maturité et de confiance en son équipe de savoir, comme tu dis, des fois même il prenait le post-up et puis il y avait un drive de Tyler Hero ou un déplacement à l'opposé de Duncan Robinson et la balle ressort et il glisse la balle à Tyler Hero qui prend son mid-range, etc., etc. Je trouve que c'est une preuve de maturité, d'être conscient de ses propres forces et de ses faiblesses, et bien entendu il faut un effectif qui puisse répondre à ces questions-là, mais je trouve que c'est une évolution positive de Jimmy Butler. Et pour revenir sur cette histoire de pression, il y a un truc auquel tu m'as fait penser, Ben, c'est qu'effectivement, là, cette fois-ci, on en a parlé, oui, la bulle, il n'y avait peut-être pas toute la pression. Cette fois, ça y est, c'est les finales NBA,
ouais.
Et tu vas jouer les Lakers de LeBron James.
Ouais.
Peut-être que ça va changer quelque chose.
Ouais, quand
peut-être.
Même.
Peut-être. C'est la question même. Que j'allais poser. Je
c'est
sais
LeBron
pas,
James.
Je vais vous laisser développer, mais voilà.
On n'a pas la réponse, mais je sais.
T'es Tyler Herro ou Duncan Robinson, tu vas jouer les Lakers de LeBron James. Ça va pas, tu vas peut-être pas être aussi détendu, entre guillemets, détendu, toute proportion gardée, mais ce que t'as pu être face aux Celtics de Jason Tatum et Jaylen Brown.
Ouais. Tu vois, LeBron, c'est le patron de la ligue, hein. Je pense qu'il y a vraiment un côté psychologique de te dire
Butler
que...
Butler l'a dit en interview, hein.
Ben, carrément, ce mec-là, chaque fois qu'il allait en playoff sur la décennie, il allait en finale.
Ça, c'est pareil fou dit comme ça.
Mais c'est vrai, la seule fois où il a pas fait les playoffs de la décennie, c'est l'an dernier, parce que la seule fois où il a pas fait les finales de la décennie, c'est l'an dernier, et les Lakers n'ont pas fait les playoffs. Chaque fois qu'il arrive en playoff, le gars, il va en finale. Et il y a très peu d'équipes qui l'ont battu 4 fois. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose, je pense que, il a une aura, en fait, qui dégage LeBron James, qui va être peut-être un petit peu différente de ce qu'ils ont vécu sur les séries précédentes. Et il y aura aussi le côté, erreur payer cash. Ça, c'est quelque chose qui pouvait peut-être passer au niveau précédent. Mais là, avec LeBron James en face de toi, les erreurs que tu vas faire, les petites erreurs de jeunesse, les erreurs d'inattention, les mauvaises couvertures, les aides côté ballon, les petits trous d'air, ça, tu vas payer ça cash, en fait. Donc, je pense que ça va quand même rajouter une certaine pression sur le fait d'être très bien appliqué et de bien suivre le scouting report sur les joueurs que tu as.
Et puis par rapport pour recentrer peut-être par rapport au match-up favorable dont on parlait et dont ont su abuser les joueurs du 8, il y en a plus tellement, enfin il y a plus de joueurs identifiés aussi malheureusement
clairement.
Pour lui qu'un Kemba Walker.
Ouais, clairement parce que il joue grand les Lakers en fait.
Mm. Après tu peux jouer en vitesse un Kuzma ou il y en a quand même 2-3 qui sont en défense qui sont pas au même niveau, mais effectivement c'est plus compliqué que les Celtics.
Les Lakers même quand ils jouent petit, ils jouent grand.
Oui, même Rondo est très long comme meneur.
Mm.
C'est ça, il y a peut-être plus cette possibilité d'en profiter. Et puis pour revenir, alors on sait jamais, c'est le grand débat, c'est un débat aussi vieux que le sport, dans une finale, est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'expérience ou avoir la fougue? Mais aussi du côté des Lakers, c'est vrai, il y a le mastodonte LeBron, et aussi des mecs comme Danny Green. S'il y a un effet final, il est clairement du côté Lakers. Les Danny Green, les Rondo et les Ward qui ont de l'expérience en playoff, certes qu'ils sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ans, mais c'est du côté Lakers tout ça. Et c'est vrai peut-être qu'il y a un effet stature LeBron qui fait que tu vas te sentir écrasé vis-à-vis de lui. La bonne nouvelle, c'est que je pense que s'il y a peu de mecs que ça atteint, Jimmy Butler doit être dans cette liste. Parce que je pense pas qu'il ait atteint particulièrement vis-à-vis de ça. Mais pour revenir sur le match-up peut-être en lui-même, il y avait une question qui m'avait assez interpellé de From Scratch 6 ou 6 qui nous disait comment LA va s'adapter à Miami. Je retourne cette question. Est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là que ça doit être posé?
Je pense que le favori, ce sont les Lakers puisqu'ils ont LeBron James et Anthony Davis. Certes, ça fait discussion de comptoir, hein, mais enfin, pour moi, c'est ce qui va résumer le truc. Ce sont les favoris, et je pense pas que en fait les Lakers vont s'adapter à Miami. Et je pense pas en fait. Je pense que Miami c'est pas une équipe non plus à laquelle tu t'adaptes parce que comme on l'a dit, Miami c'est une équipe polymorphe. Ce que Miami va faire un jour, ça va pas être la même chose qu'ils vont faire le lendemain si jamais ça fonctionne pas. C'est une équipe qui elle aussi a une grosse capacité d'adaptation, donc ça va être, je pense, à l'équipe qui va mettre le premier coup. Par exemple, si l'équipe qui va gagner le premier match, ben en fonction de ça, c'est là que je pense qu'il y aura des ajustements ou quoi que ce soit. Mais je pense pas que le Heat va s'adapter aux Lakers et je pense pas que les Lakers vont s'adapter au Heat. Je pense que les deux équipes vont jouer sur leurs points forts et ce sera celui qui a les meilleurs points forts qui l'emportera sur l'autre. Puisque ça sert à rien pour moi à ce niveau-là. Hein. T'as déjà à partir du moment où tu es arrivé en finale NBA, tu sais que tu as des gros points forts et des atouts dans ton jeu. Ça sert à rien d'essayer de galvauder simplement pour contrarier l'adversaire et ne pas l'empêcher de jouer contre ses points forts. C'est un peu comme le lobby de jouer small ball contre les Warriors, tu vois. n'a pas de sens.
Ouais, après, je pense que des adaptations en termes de style global, je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement. Après, il y aura des adaptations à la marge. Je pense tactiquement, quand il va y avoir des passages, par exemple, en zone du hit pour prendre le trait le plus gros, il y aura forcément des adaptations. Il va y avoir, au niveau des rotations des deux grands des Lakers, je pense qu'il y aura des coups de bluff de la part de Vogel, auquel va peut-être répondre par d'autres coups de bluff Spoelstra. Les coachs vont se répondre à la marge. Après, dans le style global, effectivement, je pense qu'aucune des deux équipes n'a intérêt à fondamentalement changer son approche du jeu par rapport à l'adversaire. Généralement, en finale NBA, t'en es plus là.
Non.
En finale NBA, t'es sûr de tes forces. Elles t'ont amené jusque là. Et il faut que tu continues sur cette lancée.
Et puis, par rapport, pour continuer sur cet exemple de la zone du côté de Miami, on en parlait déjà au tour précédent peut-être, pour répondre à Wade Circus Shot, pour répondre comme quoi on envisageait déjà Miami au tour précédent en finale NBA, c'est que moi je disais mais ça c'est bon, mais je crois que les Lakers c'est une des pires équipes NBA contre laquelle jouer cette zone en fait, parce qu'avec des LeBron, avec des Rondo, ils peuvent la découper en fait, là où Milwaukee ça a été caricatural et peut-être Boston dans une certaine mesure avait la naïveté de pas la découper, je suis pas sûr que cette zone là, sachant qu'en plus ils seront préparés à la jouer les Lakers, je suis pas sûr que c'est viable contre LeBron et Rajon Rondo dans un autre registre. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que les Lakers ont beaucoup d'arguments et j'ai l'impression qu'il y a quand même une hype Miami qui se crée parce que Tom, pour revenir à ce que tu disais, pour moi aussi les Lakers sont favoris, mais je vois beaucoup de monde qui commence à donner Miami. Je vois beaucoup de Miami qui commence à sortir.
Après, je pense que ce qui fait la vraie différence, c'est qu'on n'a jamais vu vraiment les Lakers en difficulté vraiment dans ces playoffs là, quoi. Ils n'ont jamais eu à avoir à, par exemple,
on les a pas vu trembler.
On n'a pas vu un carton avec post-up LeBron, quoi. Ça c'est l'action type où quand tu sais que les Lakers sont en difficulté, c'est ça. Post-up LeBron, passe trois points, cut, dunk. Voilà, ça c'est les Lakers quand ils sont en difficulté. Et on les a à chaque fois ils ont su trouver des solutions, notamment contre les Nuggets où quand il y avait un moment des pannes d'adresse, ils allaient chercher des fautes à la vieux briscard, quoi, tu vois. Ils faisaient prendre des fautes tôt dans le carton pour aller vite dans le bonus. Ils se servaient ils arrivaient à générer des points en transition grâce à à cause des pertes de balles des Nuggets. Et on a vu que ça, c'est quelque chose, l'agressivité sur le porteur, c'est quelque chose qui a pas mal gêné Miami. Notamment dans les matchs où Jalen Brown et Marcus Smart ont chassé très fort sur les extérieurs, ça les a un peu perturbés. Et on n'ait plus vu Miami en difficulté que les Lakers, même si les équipes ont gagné le même nombre de matchs, ben je pense que inconsciemment ça joue parce qu'on se dit ok, il y a tant d'éléments qui ont déjà été exposés du côté de Miami. Il y a quelques éléments qui ont déjà été exposés du côté des Lakers, mais on se dit que voilà, les adversaires de Miami ont montré plus de choses pour leur faire du mal que les Lakers, où les matchs qui perdent les Lakers sont, il y a des pannes d'adresse, il y a des pertes de balles bêtes, mais ils ont jamais vraiment été dominés et ils ont jamais vraiment pas trouvé une solution à quelque chose, tu vois.
Ouais, et puis pour reprendre ce que tu disais Ben sur l'attaque de la zone, mais sur la création de demi-terrain globalement, ce qui est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans les playoffs au fur et à mesure qu'ils avancent, c'est là aussi où ont un peu pêché les Celtics. J'enlève rien à Jalen Brown que je trouve dans une progression continuelle très solide, mais dans l'attaque de la zone, ça a manqué d'un gars qui pose le ballon ou d'un mec à servir, parce qu'une attaque de base contre une zone de 3, tu sers un mec à la ligne des lancers francs, ton grand qui sert de distributeur, ce que pourrait faire et un LeBron et un Anthony Davis. Ça manquait du côté des Celtics. Il y a eu le retour un peu précipité de Gordon Hayward justement pour avoir un autre créateur autre que Jason Tatum qui crée plus pour lui que pour les autres. Et là où Kemba Walker et Marcus Smart n'ont pas su faire la différence, Kemba pour plus une question d'adresse, Marcus Smart pour une question peut-être plus organisationnelle. Mais du côté des Lakers, on a beaucoup plus ce personnel pour gérer une zone de manière classique, comme on attaque une zone avec donc LeBron, Rondo, Anthony Davis, qui sont tous trois des joueurs intelligents pour se servir des décalages que crée naturellement une défense en zone.
Mais moi, je pense que vraiment, ce qui va faire vraiment la bascule et ce qui sera la clé pour Miami, notamment pour s'ils veulent emporter cette finale, c'est essayer de transformer les Lakers en une équipe de jump shot. Je pense que c'est leur seule solution, c'est de les éloigner du cercle, puisque Les joueurs des Lakers font un chantier au cercle. Anthony Davis fait un chantier au cercle. Je crois qu'il a, il a 61%. LeBron, il a 60%. Dwight Howard, il est à 65% au cercle. Et il faudra absolument les éloigner du cercle et, éviter de prendre trop de fautes et pas perdre des ballons, quoi. Enfin, de toute façon, Miami, on sait que c'est une équipe qui va pas se battre elle-même. Sont des gars qui ont un niveau plancher tellement haut qu'ils vont pas se battre eux-mêmes. Mais, moi, ça va être, moi, c'est ce que je vais vraiment observer, c'est comment ils vont faire en sorte d'éviter que les Lakers aillent au cercle et leur forcer à prendre des jump shots, quoi. Puisqu'on le sait, avec le temps, c'est aussi ce qui est arrivé aux Clippers, on va les citer encore une fois. On l'a vu contre Denver, avec la fatigue, quand tu prends des jump shots, au final, ben, tu fatigues, t'as les tirs qui sont soit trop longs, soit trop courts, tu vas plus au cercle, tu provoques plus de fautes et ça déraille totalement ton jeu.
Ouais, bah reprendre le schéma qu'il y avait eu un peu au premier tour, le premier match face à Portland, où Portland a emmené les Lakers dans un match de feu d'artifice, et Portland a gagné à ce jeu-là, parce que du côté des Lakers, tu parlais de l'effet final, Ben, il faut que Danny Green, il va falloir qu'il soit dedans, hein, parce que pour l'instant, c'est pas folichon, il est, je crois qu'il est à 32% à 3 points sur la série, là, ça suffira pas. Hein.
Et ils sont pas si expérimentés que ça, en dehors de LeBron James et Rondo et Howard, hein. Les autres joueurs des Lakers, ils ont jamais vraiment Danny été Green. À ce niveau-là, hein. Et Danny Green, tu vois, mais ils ont jamais, les autres joueurs, ils ont jamais été
ça vraiment. Ça en fait 4 quand même. Ça en fait 4 sur.
Les KCP,
Kuzma. Ouais, mais ça en fait quand même 4, comme il dit Ben. Ça en fait 4. Miami, ouais. À quoi? Il y a Jimmy qui est allé assez loin.
T'as Iguodala quand même qui a fait, ça fait quoi? C'est cinq finales de suite, Iguodala quand même.
Oui, avec deux franchises différentes.
Mais au jeu de l'expérience, ils sont quand même largement.
Oui, ils sont dessus. Ouais. Au jeu de la bouteille, ils sont dessus.
et puis un jeu qui doit rappeler les jeunes années de Tom. Et puis pour continuer sur cette question de la zone et aussi des Lakers, j'ai perdu ce que j'allais dire. Oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. L'avantage de Miami, c'est que ça va être la première vraie équipe qui va pouvoir couper l'accès au cercle, vraiment pas dans les dimensions que certaines autres équipes auraient pu le faire, on pense aux Bucks, mais il suffit de voir la série contre les Nuggets, LeBron a abusé du pick and roll sur Jokic et lui a mangé sur la tête, tu l'as dit, Davis a fait un chantier, le tour d'avant, il y avait personne au-dessus de 2 mètres, donc forcément, l'intérieur a été utilisé. Là, alors bam, je trouve personnellement qu'on arrive peut-être au moment où on demande un peu trop à Bam Adebayo, je pense, tout talentueux qu'il est, et il fait une série monstrueuse, notamment le dernier match contre les Celtics, je trouve peut-être qu'on arrive à ce moment où on lui demande un peu trop, parce que là, tenir une raquette face à Anthony Davis et face au coup de LeBron James qui va vouloir pénétrer, ça va être un peu compliqué, mais le Heat a les arguments aussi athlétiques pour répondre. Parce que tu parlais de ce côté bestial, Tom, athlétiquement, ils sont impressionnants.
Ils sont présents. Il n'y a pas de déficit athlétique du côté des Lakers. Là où Bam Adebayo, par exemple, Bam Adebayo, tu vois, enfin, notamment dans le match d'hier, tu sentais que c'était le joueur le plus puissant sur le terrain. Clairement. Tu sentais que c'était le joueur le plus puissant et féroce sur le terrain. Que, ce mec-là, qu'il allait faire mal. Tu le sentais. On l'a vu, notamment sur les, par exemple, il y a une action il y a deux actions pour moi qui illustrent ça. C'est son drive dunk sur Tice. Ouais, sur Tice. Et le drive, où il fait la fin de dribble end off, où il est sur Jaylen Brown. Il met la main, Jaylen Brown qui est pas le dernier venu, hein. Il met juste la main droite un peu pour protéger. Il balance un petit flotteur en main gauche, mais il crée la séparation juste avec le mec est puissant. Le mec est puissant. Tu l'as vu dans ses finitions.
Ah, mais l'équipe du Heat est puissante de manière globale, hein. On a un vrai défi physique, parfois peut-être un peu trop à la limite, mais ils sont rentrés dans les Celtics qui parfois justement pouvaient avoir cet avantage par un Marcus Smart qui allait chercher fort les attaquants adverses. Le Heat, là il y aura un vrai défi physique des deux côtés. Va falloir avoir du répondant.
Et simplement pour illustrer ce que disait Ben pour les shoots au cercle, le pourcentage de réussite au cercle, voilà, j'ai les chiffres sous les yeux. Anthony Davis, 79% au cercle sur les playoffs. LeBron James, 76% au cercle sur les playoffs. KCP, 68% au cercle sur les playoffs. Caruso, 74% au cercle sur les playoffs. Marcus Morris, 67%. En fait, les gars sont hyper forts au cercle. Donc ça va être le gros ajustement.
Ouais, c'est là où il y a un vrai danger pour Miami. Tu vois, tu parlais de l'attente qu'on a autour de Bam Ben. C'est que Miami a su très bien le faire d'ailleurs face aux Nuggets, c'est mettre tout de suite, et t'en parlais Tom, mettre tout de suite les grands en foul trouble. Donc qui avait très très vite quelques fautes. Donc Miami était très souvent dans le bonus, les Lakers étaient très souvent dans le bonus et abusaient de drive sur drive quand quand les grands en face ils peuvent plus défendre aussi agressivement et ces mecs là qui sont très adroits près du cercle vont te mettre des paniers. C'est là où le Heat a un vrai défi à relever, c'est il faut que les Butler, Crowder, Iguodala, tout ça arrivent à empêcher les drives pour ne pas exposer trop Adebayo aux fautes, et ça va être un vrai point à surveiller.
Et puis toujours par rapport à ça et par rapport à cette défense du 8, parce que pour moi c'est la bascule quand même va se créer là quand même sur la défense du 8, parce que on le dit un peu, on sait en fait Miami, c'est pour ça moi quand Alan, on parle beaucoup de lui mais c'est très fleuri hein, quand vous êtes dans une conversation avec lui, s'énerver par exemple sur les runs du 8, les Pacers et les Bucks l'ont subi aussi. Tu sais qu'il y a un mec à un moment, il y a un Hero, tu sais qu'il y a un Dragic, tu sais qu'il y a un Duncan Robinson qui va péter un câble. Là où je trouve il y a peut-être un réel danger pour le Heat défensivement, c'est qu'ils ont jamais joué de tels bons passeurs aussi. Parce que pour moi on fera un bilan de ces playoffs. Pour moi un des bilans de ces playoffs, c'est au bout d'un moment il faut avoir des bons passeurs. Et le problème c'est que on en revient à la zone. Bref, c'est une extension de tout ça. Rondo, LeBron, eux, parce qu'on sait la défense du 8 bouge beaucoup, etc. Si tu rates une communication, c'est sanctionné. Ça revient au ce que t'avais dit Tom, le pas le droit à l'erreur. Là, c'est concret là. Tu peux pas te rater avec de tels passeurs.
Et même sur la pose d'écran, on pourra pas se cacher.
Ouais. Et même sur la pose d'écran, hein, puisqu'on l'a vu, hein, les Celtics ont un peu démonté la zone de Miami avec des poses d'écran à l'intérieur du jeu. entre les deux joueurs ou sur un côté, et ça typiquement tu vois venir LeBron James, Anthony Davis sur ce genre de choses quoi, tu le sens que ça viendra. Mais après je me demande, on en a pas beaucoup parlé, est-ce qu'on sous-estime peut-être pas l'attaque de Miami pour le coup, puisqu'on en a pas parlé du tout?
Bah un peu, parce que tu vois, tu parlais des jeux de passeurs, enfin c'est Ben qui évoquait les passeurs, et toi t'en parlais Tom sur Jimmy Butler. Ils sont intelligents, on l'évoquait un peu en filigrane, mais ils sont très intelligents, Miami, de par cet aspect couteau suisse et d'avoir plusieurs lames, plusieurs cordes à leur arc. Ils savent aller chercher le gars qui est en train de péter un câble. Genre, quand Tyler Hero est chaud, bon, il y a ce fameux match où il explose les compteurs, très bien, mais justement, les autres le reconnaissent et vont jouer autour de lui. Et quand un début d'action, un schéma est dessiné et que ça ne va pas au bout, ils sont capables de reset, d'aller chercher une nouvelle... possession rapide pour trouver le bon gars, et ils le font très bien, et ils ont la capacité d'avoir un Bam qui porte la balle, on l'a vu par séquence être le meneur, remonter la balle depuis le début.
Carrément.
D'avoir donc Jimmy Butler, Goran Dragic, Tyler Hero en création surtout pour lui-même, et il y a cette espèce de feu follet de Duncan Robinson qui court de partout et qui doit être surveillé constamment, parce qu'à tout moment, en plus, enfin quel shoot incroyable, bon, encore une fois secret de Polichinelle à Duncan Hebdo, ce shoot là vend du rêve à beaucoup de monde. Mais voilà, ils ont cet ensemble d'armes offensives différentes, ils savent l'exploiter, et ils sont, justement, à l'image de Jimmy Butler, ils ne semblent pas trop forcer sur un plan de jeu ou un joueur, et être capable de dire, bon, ça marche pas, on passe à autre chose, et y en a bien un qui va finir par marcher.
D'ailleurs, gros ajustement de Spoelstra, hein, sur ces playoffs, tu vois, qu'on compare l'équipe qui a fait la saison régulière et l'équipe qui joue les playoffs. Il n'y a aucun 5 de Spoelstra où il n'y a pas au moins 3 joueurs qui peuvent shooter.
Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que depuis le premier tour, c'était le grand changement.
Le seul qu'il a sorti là, c'est sur le quatrième carton. Là. C'est le quatrième carton où il a sorti Crowder et qui a remplacé Crowder au profit. Il a remplacé Iguodala par Crowder, du coup, avec les autres playmakers. Là où Crowder avait plus le rôle de finisher shooter, Iguodala même s'il fait 4 sur 4 quand même, mais c'était pas, il a rajouté plus du playmaking que du shoot en fait à ce moment-là.
Mais oui, c'était le bonus le 4 sur 4. Voilà.
Et moi je trouve comme vous l'avez dit, il y a les shooters etc, mais peut-être qu'on parle peut-être pas beaucoup de cette attaque du 8 parce qu'on a aussi du respect pour cette défense des Lakers, parce que
aussi.
On se dit aussi que les pièges dans lesquels sont tombés, pas les Celtics, parce que les Celtics sont
pas
présents, mais les Bucks, eux aussi ils en prennent pour leur grade, les Lakers vont pas tomber dedans.
Ils vont pas tomber dans les pièges de se prendre de se faire arroser à 3 points pendant 5 matchs. Ils vont pas le faire.
Donc ils ont surtout le personnel pour réagir aussi, quoi.
En plus, et moi je trouve que c'est là où c'est pas que j'ai perdu de la confiance, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, je trouve que la domination entre guillemets, des grosses guillemets, ce qu'a pu faire le Heat face aux Celtics, ça donne des billes en plus aux Lakers.
Oui, ce que disait Tom. Ouais,
ouais, totalement. Je trouve que moi, elles vont faire une grosse différence parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des trous d'air du Heat en réussite. Il y a eu des moments où, en particulier sur les 3 points face au cercle, ils ont plus rien mis. Et là, je trouve que Vogel a, quelque chose sur lequel il peut s'inspirer très clairement. Et je maintiens, on met trop de pression sur Bam Adebayo. C'est juste mon point à moi, mais il affronte Anthony Davis et on lui demande, c'est offensivement, si on continue sur l'attaque, c'est un peu le hub offensif, c'est un peu un mec, c'est une plaque tournante des fois de l'attaque du 8. Je trouve que dans une série face aux Lakers, Anthony Davis, LeBron James, il a beaucoup de responsabilités.
Et attaquer et puis être au centre de la zone aussi de l'autre côté. Mais la phrase qui résume ça... C'est toi qui l'a donné, je crois, Ben, sur notre conversation. C'est quand même ces finales de conférence. Les Lakers sont plus que rassurés de par une espèce d'impression de domination. Là où on a senti le Heat parfois un peu fébrile. C'est un grand mot, hein, parce qu'ils sont quand même en finale. Mais, ont moins rassuré, on va dire. Et du coup, quand même, avantage Lakers, en tout cas, dans l'impression.
Eh ben, si avantage Lakers, messieurs, c'est pas le bon moment. Fallait pas être dans ce podcast-là de preview parce que c'est ce genre de pronostic qui va vous suivre toute votre vie. Blake Griffin MVP. la question de @RafalMauve97. 4 ou 5 matchs pour le titre des Lakers. Et est-ce que le Heat peut vraiment empêcher les Lakers de remporter le titre? Celle-ci, c'est toujours une question de @Cronier_Titouan. En gros, là, c'est le moment des pronostics. On semble entendre qu'on penche tous du côté des Lakers, j'ai l'impression.
Je sous-estime peut-être le Heat, mais j'ai du mal à les voir prendre 4 matchs à cette équipe des Lakers, là, en fait.
C'est dur, hein.
Je vois plus les Lakers gagner 4 matchs qu'en perdre 4, en fait.
Ouais, mais de toute façon, moi, pour répondre à la question, et je me mouille en premier, on ne parie pas contre LeBron James.
Ouais, le voilà. Traumatisme.
Donc on ne parie pas contre LeBron James, donc je reste sur mon pronostic de début de saison, je pense que les Lakers vont gagner. Après 4 ou 5 matchs, je trouve que je pense qu'on sous-estime peut-être un peu le Heat, je pense qu'à la hargne, 5 ou 6, je dirais, moi, quand même. Je les vois, allez, 6. Lakers en 6.
Ouais, pareil, c'est le pronostic, sans être méchant, Adrien, des petits bras. Six,
oui, je sais. Dans les autres pronostics, j'ai dit ça aussi. Mais après, parce que aussi, par rapport à ce qu'on disait en début de podcast, tu m'as lancé dessus. Parce que, voilà, moi, j'ai mon petit cœur qui bat pour Jimmy, qui est, j'ai envie que Jimmy Butler ait un vrai combat face aux Lakers, qu'il puisse en faire. Et on a des raisons d'y croire. On a quand même évoqué pas mal de bons côtés du Heat. Je pense que j'ai du mal aussi à les voir en prendre 4, mais il y a des vraies armes et puis on verra. C'est-à-dire sur un début de série, les Lakers ont souvent lâché le premier match. Ce serait pas une très très grande idée, je pense, en finale, de lâcher le premier, de mettre le Heat en confiance. Donc on sait jamais, tout peut arriver. Je pense quand même les Lakers au bout, mais j'espère que le Heat me mènera un beau combat.
Ben pareil, moi je pense que les Lakers vont l'emporter. Par contre, je pense que ce sera soit un sweep, soit un 6. Je vois pas le Heat gagner qu'un seul match. S'ils gagnent un match, je pense qu'ils en prendront deux. Mais si, ou sinon, ils en gagneront pas.
C'est une vraie possibilité pour toi, Tom, le sweep?
Franchement, j'espère pas. Ce serait dommage que le Heat sorte sur, comme ça, mais c'est possible. C'est possible. Parce que comme je t'ai dit, hein, on n'a pas encore vu le post-up LeBron James.
Ça, on n'a pas vu la carte finale,
on les a pas encore vus jouer. Je sais pas si tu te souviens, contre les Warriors, quand la fameuse J.R. Smith, enfin, le match d'anthologie de LeBron James qui restera comme la J.R. Smith. C'était ça. Il y a plus de post-up LeBron James, passe 3 points, post-up LeBron James, cut, post-up LeBron James, point, dunk. C'était ça, en fait.
Après, la
différence, on l'a pas encore vu, le mode inarrêtable.
Il y a beaucoup de séquences comme ça où c'est un peu compliqué, où LeBron trouve pas forcément la solution sans post-up, où il va servir Anthony Davis, où ils vont jouer à pick and roll, jouer le switch, service Anthony Davis. Anthony Davis qui est létal à mi-distance hein, sur ses
ouais, 50, 50%. Il a 50% à mi-distance.
C'est n'importe Anthony quoi, Davis. Voilà. Je dirais pas plus.
Puis pour réagir un peu et m'appuyer sur la J.R. Smith, c'est vrai que ce match 1 risque d'être déterminant et ça fait, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une équipe de LeBron pas arriver sur un match 1 de finale focus? Parce que quand ils perdent les matchs 1, c'est juste que là, dernièrement, ils prennent les Warriors et les Warriors sont indécents. Mais ils sont, il y a toujours, je pense, bah maintenant le mec a 10 finales, il y a cette conscience de l'importance du moment qui fait que je les vois mal en fait déjouer sur un match 1. Et si t'es mené 1-0, ça devient difficile parce que en gagner 4 sur 6, ça devient très compliqué. Donc je penche aussi du côté Lakers. Et du coup, on va croire qu'on est en titre, alors que c'est tout sauf le cas. Mais oui, en fait, c'est juste déjà LeBron, Anthony Davis aussi, parce que rien qu'Anthony Davis, on l'a dit, il est impressionnant, assez dur de parier contre eux. Alors, on a cet épisode va être très long parce qu'on a encore d'autres questions. J'ouvre la parenthèse, j'ai intitulé ça sur mon magnifique document Google Doc, Legacy LeBron, parce que on a deux questions par rapport à ça. Deux des fans des Knicks, hein, qui eux, effectivement, ne sont pas trop habitués au Legacy dernièrement. At French Knicks Podcast, Tom du regretté French Knicks Podcast, qui nous demande LeBron définitivement unique dans l'histoire. Et une question de Nixon qui nous demande 6 victoires des Lakers, LeBron définitivement le GOAT. Alors, je connais mes acolytes, ils ne vont pas se risquer à répondre à cette question. Je vous demanderais plutôt, est-ce que c'est pas une des finales les plus importantes de la carrière de LeBron? Parce qu'on sait que pour ces joueurs de cette stature, c'est important, la legacy, voilà, l'histoire. Est-ce que celle-ci, il a juste pas le droit de la perdre?
Ah bah, on parlait du côté mission, la différence entre c'est les deux équipes qu'on a en finale par rapport aux autres équipes. Il y a un truc qu'on sent depuis le début de la bulle, c'est que LeBron James... Il y avait une illustration d'ailleurs qui était passée, je crois que c'était Ilias qui l'avait mis sur notre conversation entre nous de Kebdo quand il y a eu le trophée de MVP de Giannis, où on voyait Giannis courir, enfin faire la course avec LeBron, s'arrêter pour attraper le trophée de MVP, et on voyait LeBron continuer à courir derrière une chèvre, donc qui illustre le GOAT. On sent, voilà, ce truc-là, LeBron, il est à la chasse à l'histoire. Alors après, le débat du GOAT, oui ou non, je suis un fan des Bulls, donc vous connaissez ma réponse, mais en l'occurrence, LeBron James, là, il est à la poursuite de l'histoire, et s'il gagne, il y a une symbolique sur cette victoire cette année, si les Lakers vont au bout, qui est assez incroyable. Il y a LeBron qui gagne aux Lakers, les Lakers qui retrouvent le trophée, la mort de Kobe. Cette année-là, le buzzer beater avec Anthony Davis qui gueule Kobe. Il y a tout pour que ce soit écrit noir sur blanc dans les livres d'histoire et rajouter une ligne avec LeBron qui gagne avec une troisième équipe, toujours en étant, si les MVP des finals avec en gagnant, ce sera le premier de l'histoire à l'être. Donc dans trois équipes différentes, trois fois MVP des finales. Il est dans cette course là après le GOAT pas le GOAT, les comptes se feront à la fin, mais en tout cas oui, LeBron, je pense que LeBron le sait lui-même et on l'a vu quand ils ont gagné donc la finale de conférence, l'interview post-match où ils ont les casquettes champion de conférence, ça l'intéressait pas du tout, il était déjà prêt pour cette finale et c'est le seul et unique objectif.
Ouais, carrément, enfin, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que t'as dit. Enfin, moi, personnellement, le débat du GOAT, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, donc, voilà, quoi, enfin. Après, le
LeBron James. Tellement des hipsters, c'est insupportable.
après, le LeBron James, il y a quelque chose qui va être important pour lui, c'est le fait de ne pas perdre en étant Goliath. C'est-à-dire qu'il a gagné en étant David.
Ah oui.
Quand il a battu les Warriors. Et il a perdu en étant Goliath uniquement face à Dirk Nowitzki. Et je pense que si perd là, par exemple, face à entre guillemets Jimmy Butler, enfin, LeBron James n'est pas censé perdre quand il est favori. Et les seules fois où il a rarement perdu quand il était favori.
Il va avoir des flashbacks de Dallas.
Tu vois, c'est la seule intrigue qu'il y a vraiment à ce niveau. Mais après, est-ce que ça va changer sa place dans l'histoire vu où il est déjà? Je pense pas tant que ça. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Moi, je pense pas tant que ça.
Je suis assez d'accord. Je vais résumer ça. Je l'avais un peu sous-entendu. Il a pas le droit de la perdre parce que c'est la première fois depuis pas mal de temps quand même qu'il est favori en entrant. Il peut pas la perdre. Ce qui me fait d'autant plus dire que ce mec, à l'exception, bien sûr, de cette tâche Dallas, il a quand même une capacité assez incroyable à répondre présent quand il faut.
c'est aussi ça qui nous fait peut-être pencher du côté des Lakers et de LeBron. Même en 2020, c'est difficile à dire des Lakers et de LeBron. Hein. Il y a toujours un petit blocage. bref.
Ouais, bah, donc, c'est comme les Warriors et Kevin Durant. Hein. C'est,
totalement.
C'est moins. Kevin Durant et Warriors, c'est plus. Pour moi, ils sont vraiment différenciés à jamais. Alors que là, LeBron, s'il gagne là, puis mettons l'année prochaine, bon, peut-être que voilà.
Mais en tout cas, ouais, c'est un titre important. Et oui, moi, je maintiens que LeBron peut, d'un point de vue historique, ne peut pas perdre. Si on, dans sa relation avec l'histoire, ils peuvent pas vraiment perdre. Alors, on va refermer cette page Legacy. Il y a quelques petites questions pour la fin, messieurs. Alors, encore une question de @cronier_titouan qui nous a posé pas mal de questions. Butler, top 5 NBA en 3 petits points, leadership. Moi, j'ai toujours du mal à juger leadership parce que je suis pas dans le vestiaire avec les mecs. Parce que je pense qu'on pose cette question. On pose cette question il y a 2 ans quand on se moque de Jimmy Butler à Minnesota, on rigole.
Ah bah tout à fait. J'allais exactement dire ça. C'est le propos qu'on voit pas mal ressortir. Je crois que j'ai vu Tyus Jones sur Twitter faire une sortie à ce niveau-là, dire voilà, il y a 2 ans, on tablait.
On disait que c'était Jimmy le pire leader,
un cancer dans les vestiaires, etc. T'as Hugh Jones qui disait c'était des citations de gens qui sont jamais rentrés dans les vestiaires. On n'en sait rien et leadership c'est abstrait. C'est sûr que c'est toujours important d'avoir des leaders dans un groupe. Ça se à tout niveau dans le sport on le voit. Après le leadership d'un joueur juste par le mental c'est un peu quelque chose d'un peu mystique. Il y a toujours le basket qui rentre en compte. C'est un peu les deux en même temps. Donc c'est difficile à qualifier. La seule chose que je voudrais rajouter, mais c'est juste parce que je suis un fan des Bulls, c'est que quand on a posé à Jimmy Butler la question de où il avait trouvé les sources de son leadership pour aider Tyler Hero par exemple, il a cité Lou Holding, Joakim Noah, Carlos Boozer et Eddie Rose. Donc
C'est Vets.
Quelque part c'est pour ça qu'on est un peu derrière le hit du côté des Bulls. Voilà, il y a un peu de nous au fond.
T'es pas surpris qu'il ait pas cité D-Way des Rajon Rondo?
Non, ça me va. J'aurais aimé qu'il cite Taj Gibson, moi. C'est lui qui m'a manqué dans la liste. Et Boozer qui m'a surpris, par contre. Genre, le leadership de Carlos Boozer, je m'y attendais pas vraiment, mais pourquoi pas.
Qui est plus connu pour son contour.
Son contour, son remplissage au feutre, tu veux dire.
Ah, on a passé la barre de l'heure et quart. Plus rien, on ne contrôle plus rien.
Mais plus sereinement, par exemple, sur Jimmy Butler, d'ailleurs, ça c'est une question que j'avais pour vous. Est-ce que ça, quand on regarde ce qui s'est passé il y a 18 mois, il y a 20 mois, Anthony Davis demande son transfert et se retrouve en finale NBA. Jimmy Butler demande son transfert, il est transféré à Philly, il choisit de partir à Miami, il se retrouve en finale NBA. André Iguodala demande son transfert, il est dans une meilleure solution et gagne plus d'argent. Qu'est-ce que ça nous dit sur la suite du déplacement des joueurs? Puisque tout le monde se retrouve dans une meilleure situation au final. Il y a aucun joueur qui a bougé qui est pas dans une meilleure situation aujourd'hui.
Parce qu'il y a de plus en plus de bonnes situations. C'est ça aussi, je pense, la clé. Et ça me fait, je peux pas réagir. Tom, t'as trop dit bonnes situations. Ça me fait, ça fait trop penser. Reprenons notre sérieux. Est-ce que c'est une bonne situation? Alors, sans répondre à cette question-là, je pense que ça dit que oui, il y aura peut-être plus de mouvements de joueurs. On fait référence à notre podcast qui date d'il y a 14 mois maintenant. Est-ce que les joueurs ont trop de pouvoir? Je pense qu'il y aura plus de mouvements de joueurs, mais je pense aussi qu'il n'y a jamais eu autant de bonnes situations, vraiment. C'est-à-dire que là, maintenant, t'as même les équipes, tu vois, Miami, on les voyait pas en finale NBA, mais ça restait une bonne situation quand même.
Ouais, quand même.
Mais je pense que les équipes, de manière globale, sont plus... On en parlait rapidement sur les Nuggets, on l'évoquait un peu en fond. Les directions des différents staffs des équipes sont plus claires. J'ai l'impression que les équipes, on en parlait aussi dans des podcasts tout au long de l'année, que les équipes sont un peu plus intelligentes dans leur construction. Et donc la situation est beaucoup plus claire pour les joueurs en se disant « bah moi, cette situation me semble plus cohérente par rapport à là où j'en suis dans ma carrière, les joueurs qu'il y a, la culture qu'il peut y avoir dans telle ou telle équipe. » Et donc je pense qu'effectivement, on verra peut-être plus de mouvement dans le sens où les joueurs vont aller chercher ce qui leur semble leur correspondre. Après, il y a un contre-exemple, c'est Paul George Kawhi.
Ben, ils sont dans une meilleure situation quand même. Hein. Ils étaient favoris.
Meilleure situation pour Kawhi. Favoris, certes, mais quand tu fais le compte à la fin, est-ce que là maintenant, tu vois, c'est un peu la question piège et qu'on avait un peu évoqué à la sortie de la série qui voit le départ des Clippers. Est-ce que là maintenant, Est-ce que Kawhi serait pas mieux encore à Toronto qu'avec ses Clippers là en l'état?
Moi, je pense que non.
Ah, ça se défend.
La question se pose.
Ça dépend parce que tu te dis que tu préfères quoi, sauter maintenant ou peut-être aller en finale NBA, perdre en fait, qui est en gros le débat de LeBron Jordan posé. Petite aparté.
Quand tu vois l'âge des joueurs à Toronto et quand tu vois l'âge et les possibilités qu'il y a aux Clippers.
Ouais, mais c'est que des possibilités.
Entre les deux situations, tu vois.
Ouais, mais c'est que des possibilités. Ils avaient des possibilités avant la saison. Ils perdent en 7 contre les Nuggets.
Que nous avons encensé un début d'émission.
Oui, bien sûr, mais qui sont, en respectant les fans de Denver, qui sont pas censés éliminer les Clippers armés jusqu'aux dents en 7. Je sais pas, parce que je suis d'accord avec Adrien, il y a la dimension résultat qui est ultra importante en fait. La situation c'est bien, mais quand t'es une superstar qui demande son trade, c'est aussi que fondamentalement derrière l'idée c'est d'avoir des résultats.
Mais après lui, bon, il est arrivé libre. Le gars qui a demandé son trade, c'est Paul George.
C'est vrai. Mais il y avait cette histoire qu'il aurait demandé Paul George, etc. Enfin, on reste dans ce schéma des joueurs qui choisissent leur situation. Et ça amène aussi la question, je prolonge un peu ce sujet-là rapidement, mais des joueurs qui vont chercher leur bague. Je pense à Millsap, qu'on a évoqué beaucoup. Est-ce que Millsap, l'année prochaine, va être un joueur qui va demander un petit salaire dans une équipe de contender, comme ont pu faire, je sais pas, il y avait personne qui me vient en tête tout de suite.
David West. Plusieurs.
Voilà, David West, pas parfaitement. En plus, ça correspond un peu dans le type de joueur.
Le profil, ouais.
Voilà, donc il y a ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser juste à une chose. Félicitations à Dion Waiters, qui est donc champion NBA.
Il aura sa bague, ouais.
Il a joué pour Miami et pour les Lakers, donc voilà.
Très bien, on continue avec une autre petite question. Alors celle-ci, je l'ai vue ce matin sur Twitter, ça a agité un peu le NBA Twitter. Est-ce que Miami n'a pas prouvé qu'on peut gagner sans tanker, entre parenthèses, coucou fille? Alors ça doit être Pierre qui a tweeté ça.
C'est un cheap shot.
Parce que
ça c'est un coup bas, c'est un chiro shot pour les amateurs de catch.
Ça doit être Pierre que j'ai vu tweeter ça avec We Are Thunder ce matin. Miami c'est alors déjà, je me rappelle pas exactement, mais je crois avoir reconnu le phrasé de Pierre. Miami c'est Spoelstra, Riley, une situation d'un point de vue tout simplement vie. T'es à Miami, quoi, voilà, South Beach, etc. Je crois pas que Pierre l'a cité, mais il y a aussi l'aspect fiscal. Il y a pas d'impôt en Floride. Enfin bref, Miami, c'est pas le bon exemple parce que en fait, selon moi, ce qu'a fait Miami, c'est pas toutes les équipes ne peuvent pas le reproduire en fait. Tu peux pas le faire à Minnesota en fait. Tu vas pas ramener les mecs à Minnesota.
Je comprends l'exemple. Et surtout, t'as pas le pouvoir d'attraction. T'as pas le même pouvoir d'attraction. Et puis Miami, c'est un peu quelque chose d'à part. C'est un peu les nouveaux Spurs, non?
Ouais, il y a ce côté-là. Parce que tu disais, Pat Riley, Eric Spoelstra. Il y a ce côté filiation, enfin, le GM coach. Et puis, oui, le climat.
Mackie Harrison qui est prêt à dépenser.
Oui, c'est ça. Il faut que ton proprio soit aussi dans la même lignée que ton sportif. Effectivement, c'est pas possible partout. Ça démontre que oui, mais ils sont pas les seuls à finalement pas faire de transition, de gros reset, on va dire, à base de tanking. C'est des situations qui arrivent, c'est conjoncturel et c'est des questions de stratégie en fonction de ton attractivité et de ce qui est disponible. C'est plutôt salutaire en fait que ces situations existent parce que si effectivement il y avait que le tanking, ce serait un peu triste. Le tanking existe aussi et tant mieux, notamment pour les petits marchés parce que j'ai cité Minnesota, mais on peut parler de Cleveland, on peut parler, je sais pas, d'Atlanta, de Charlotte, de tous ces plus petits marchés qui ont plus de difficultés à garder leurs joueurs majeurs ou à attirer des joueurs majeurs.
Et il y a aussi une grosse notion de chance, hein. Par exemple, pas sûr que Tyler Hero soit Tyler Hero s'il est pas à Miami, pas sûr que Duncan Robinson soit Duncan Robinson s'il est pas à Miami, Bam Adebayo pareil, et même quand on te dit ça se joue un peu, rappelons que les Mavericks ont refusé de récupérer Doncic gratuitement dans le cadre du sign and trade de Jimmy Butler, hein.
Dragic.
Donc ça se joue à rien. Ils ont refusé Dragic, ouais.
Oui, t'as dit Doncic, oui.
C'est pour ça.
Dragic, pardon.
Parce que je me suis dit quelle erreur. Mais oui. Puis il y a cette notion de chance. Et si on retourne la chance, alors je sais que Philadelphie, chez les fans de Boston, bien évidemment, mais d'autres franchises, c'est un peu la cible. Mais Philadelphie, ils sont à un shoot incroyable d'être un final de conf, dans une finale de conf où mon petit doigt me dit qu'ils sont très dangereux. Enfin, ils sont à rien aussi, hein. Eux, si, et même dans d'autres aspects de la franchise, s'il y a bien une franchise qui est en train de prendre le flambeau du Thunder dans l'histoire de la malchance, c'est Philadelphie récemment, quand même, hein. Enfin, il y a un espèce de concours. Donc,
Je pense pas en fait que ça. Enfin, toute façon, l'idée selon laquelle il y a une façon de reconstruire, ça a toujours été faux en fait. Il y a pas une façon clairement, de reconstruire. Ouais. Et je trouve moi qu'il y a une espèce de d'obsession du côté des fans NBA pour ce qui s'est passé à Philadelphie.
Ils ont pas aimé le tagging.
En faire un espèce d'antéchrist, c'est pas bien, faut pas faire ça. Bah, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Enfin. Et si ça marche pas, enfin, j'avais lancé cette question-là un jour sur Twitter. Est-ce que le process a pas réussi et c'est pas l'après qui a posé question en fait. Enfin là, c'est un tout autre débat que j'ai très peur d'ouvrir à 1h30 d'émission. Donc on va continuer. alors c'est @CursedBLCK qui est la personne, une des personnes derrière le Pascal ou Gang qu'on salue. Alors pas de bague pour le gang et pour Pascal cette année. Après ces finales de conférence incroyables à l'Est, j'aimerais avoir votre top 5 des coachs NBA. Alors mes coéquipiers n'ont pas été préparés à cette question. Donc je vais peut-être un peu les guider, les aider. Je pense que Spoelstra a complètement validé son strapontin.
Nurse.
Je pense Nurse aussi. Stevens, je pense. Moi, il y a une question.
Après, c'est dur. Hein. Enfin, il y a tellement de bons coachs. Tu vois,
Quelqu'un a mis Popovic. Et moi, je trouve qu'il y a... Alors, je vais pas blasphémer.
Heureusement que Madia n'est pas là.
Popovic, la question commence à se poser. S'il reste toujours dans ce top 5-là.
Enfin, là, on parlait de legacy pour LeBron. C'est difficile de lui enlever. C'est effectivement, même si c'est plus compliqué ces dernières années, il fait quand même partie des gros coachs. Après, c'est vraiment une question compliquée parce que une nouvelle fois, c'est quelque chose d'assez conjoncturel selon la situation. Le coach a des armes et peut soit rester sur des acquis, soit tenter des choses. Il y a des gens qui vont peut-être mettre Mike Malone maintenant après le gros run des Nuggets.
Ah, ils auraient tort, mais oui.
Oui, voilà. Là, moi, je trouve qu'il y a des vraies limites dans le coaching de Mike Malone, donc.
Il s'est quand même réinventé un peu Pop, hein, parce que l'équipe qu'on a eue dans la bulle de San Antonio, elle était totalement différente de l'équipe qu'on a eue en saison régulière, hein. Sans Aldridge et avec DeRozan en 4. Enfin, il s'adapte petit à petit au basket moderne. Après, c'est sûr que sur le CV, c'est difficile de pas le mettre dans le top 5. Tu vois, il y a des coachs comme ça où la longévité fait que t'es obligé de respecter ce qu'ils font.
Et après, il y a la question des coachs de LeBron James, pour faire tout simple, parce que Vogel a fait des belles choses. Moi, je trouve qu'il est pas déméritant, mais Vogel, il coach une équipe avec LeBron James, avec Rajon Rondo, avec Jason Kidd à côté de lui, avec des joueurs très intelligents. Donc, quel crédit apporter au coach à chaque fois à ce niveau-là? Parce que Spoelstra, pendant longtemps, avait cette réputation-là d'être c'est LeBron le coach. Bah, preuve en est, non. Spoelstra est un vrai coach très intelligent et il l'a très bien illustré sur ses finales de conf.
Et tu vois, il y a Kerr, peut-être qu'on a oublié un peu puisque les joueurs sont pas là. Kerr, qu'on a peut-être un peu laissé de côté, cette saison. Et on a vu que c'est un petit peu, c'est un petit peu plus difficile, pardon. un matos imparfait, tu vois. Donc, enfin, il y a pas, enfin, dans le top 5, il est pas si évident que ça, hein. Après, peut-être que, enfin, moi, je me sens peut-être pas assez légitime pour donner un top 5 vraiment, parce que on sait bien que, enfin, le coach, on voit le coach, mais au final, chaque coach est différent, et surtout à NBA, hein, le coach, enfin, comment dire? Les coachs, ils font pas que coacher, quoi. Enfin, il y a la gestion des égos, il y a énormément de choses, quoi. C'est pas juste le mec qui appelle les systèmes, quoi, et qui fait les remplacements.
Bien sûr. Après, la trinité que t'as citée, Ben, je pense que le Nurse, Spoelstra, Stevens fait à peu près l'unanimité dans un top 5. Après, l'ordre et le reste du personnel, faudrait voir, mais je pense que ces trois-là ont assuré une belle place, en tout cas,
pour Carlisle, les gars, dans le futur proche.
Oui,
Carlisle, c'est incroyable, mec. Il arrive à faire des attaques, le mec, il fait des attaques flamboyantes depuis 10 ans.
C'est vrai. Avec à la base deux.
Guaria.
Voilà.
Après, moi, je trouve qu'aussi, il y a la question de c'est quel coach. Parce qu'on avait ce débat-là avec Alan. Je suis pas sûr que je donne le vestiaire des Clippers à Stevens, tu vois. Enfin, il y a aussi.
Ah oui.
Il y a aussi la question de le rôle du coach.
Parce que nous, on a un peu l'aspect esthétique en Europe, j'ai l'impression, où c'est le coach qui fait, qui crée, qui met en place des systèmes, etc. Je pense que quand t'as l'effectif des Clippers, savoir gérer les égos, c'est peut-être la qualité numéro une qu'il faut avoir. Mmh. C'est là où j'ai toujours voulu être un peu sympathique à l'égard de Doc Rivers, parce que je pense qu'il a pas, de base, le job est pas facile, en fait.
Donc, clairement.
Savoir contenir ces mecs, c'est très important. On peut continuer. Alors, une question qui m'est adressée. At The Pain Don't Lie, Dwight Howard champion à Orlando, un mot Benjamin. Alors comme je l'ai dit, la dernière fois qu'on m'a appelé Benjamin, j'ai pas souvenir en fait. Alors un mot. Alors déjà, il n'est pas encore champion. Respectons le hit. Ensuite, j'ai pas réagi au moment où vous avez parlé des chasseurs de bagues, peut-être Paul Millsap et à l'ancienne David West. C'est quand même extrêmement bizarre quand ton joueur favori ou un de tes joueurs de cœur qui a été une superstar à un moment va gagner un titre en role player. C'est pour moi c'est une demi-bag. Je sais pas, je vais pas dire comment le vit Dwight Howard, je ne suis pas malheureusement en contact avec Dwight Howard, mais ouais. C'est différent en fait, ça pas de saveur tellement.
Ouais, il y a un goût un peu je pense dur, que s'il y avait s'il y avait Melo dans l'effectif des Lakers, c'est à la place de Jared Dudley. Je pense que j'aurais la même réaction que toi. C'est vrai que il y a un côté, c'est comme si T-Mac l'avait eu avec les Spurs, où les gens disaient ouais, il a enfin passé un tour, il est en finale, ouais, mais il a pas joué. Donc là après, Howard contribue pour le coup. Howard contribue vraiment et il l'aura mérité.
Pour moi, c'est ça le plus important, c'est le côté peut-être contribution. Pour moi, le côté contribution est plus important que le rôle, tu vois.
Oui, il a mis sa pierre à l'édifice, mais je sais pas, peut-être que je suis trop exigeant, mais il y a un côté où tu te dis oui, enfin, c'est quoi, c'est le 4, 5, 6e meilleur joueur de son équipe quand il gagne sa bague, il y a pas le côté. Je sais pas parce que, en fait, tu vois, quand on parle des mecs après 20 ans après, c'est ça, moi, qui m'énerve avec la course à la bague, c'est que, on dira pas, ah, Dwight Howard, il a gagné sa bague en étant un contributeur, on dira, Dwight Howard, one time NBA champion, 3 times DPO, tu vois, on dira des trucs comme ça, tu vois.
C'est sûr.
First ballot Hall of Famer.
Exactement. Totalement. Et pour finir, une question. Quand on regarde les finales de conférence et le secteur intérieur, AD aux Lakers, Bam à Miami et Jokic aux Nuggets, est-ce que ça ne montre pas un signe du retour au premier plan des pivots dans la NBA? Eh bien, to be continued, parce qu'on va s'arrêter là, parce que... Incroyable. C'est une de mes meilleures fins, je pense. Parce que, tout simplement, c'est un podcast que j'aimerais imposer. Alors, pour être honnête avec les auditeurs, je l'ai marqué dans notre petit Google Doc. Et mine de rien, j'aimerais bien... Donc, maintenant, ils sont un peu forcés, vu que je l'ai annoncé. j'aimerais bien qu'on discute de ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Parce que moi, je répondrais non à cette question. C'est pas un retour au premier plan, et c'est surtout une transformation qui continue. Mais c'est ma réponse, et on détaillera et on glosera une prochaine fois. Messieurs, c'est très rare, on est à plus d'une heure et demie. Donc, ce que je retiens, c'est que Tom annonce un 4-0 ou un 4-2, et que du côté de Adrien et moi-même, on part sur un 4-2, donc une victoire des Lakers.
Voilà, c'est bien résumé. Et quelle fin, bravo, respect.
Ah ouais, je suis couronné par Grégoire Margoton, incroyable. Donc, j'en suis très heureux. Là-dessus, on va conclure cet épisode 7, preview, bilan des finales de conférence et preview des finales NBA. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement uniquement Twitter, et sur les plateformes de streaming, comme d'habitude, pour nous remercier de cette saison un peu folle. 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour discuter de ces finales NBA. Salut et bonne finale.
Salut.
Salut.
On doit leur dire qu'on fait un podcast après chaque match de finale. Je ne sais pas.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention. but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.